Pendant une seconde, Eddie ne se rendit même pas compte que le vieux gars s'était tu.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. Avec moi ce soir, autour des micros, il y a Grand Poil.
Bonsoir.
Émilie.
Bonsoir.
Urde.
Hello.
Emmerich.
Bonjour, bonsoir.
Et Julien.
Bonjour à toutes et à tous.
Tout le monde est là.
Oui.
Et pour la deuxième fois, on enregistre en ayant branché nos caméras, ça nous fait tout bizarre.
Ah oui.
Comment allez-vous?
Il y en a qui ont pris les douches et pas d'autres.
Moi, j'ai pas pris de douche avant de me connecter.
Moi, je me douche avant de me coucher.
Moi, je me douche quand je me lève.
Je fais aucune activité sportive.
Je me douche quand j'ai envie.
N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quand est-ce que vous prenez votre douche.
Eh oui, on va engager notre communauté. Dites-nous quand est-ce que vous prenez les douches.
Quand est-ce que vous prenez vos douches. Bon, ben, on va parler de quoi aujourd'hui, Emmerich?
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de La Calade, qui est un quartier du 15e arrondissement de Marseille. Ce quartier, situé à l'ouest immédiat du port industriel de Marseille, et dont le nom vient de l'occitan Calada, qui signifie « descente », accueille la cité de Consola, connue pour son club de football, les fameux loups de la Calade.
J'ai pas lu ça.
Les fameux.
T'as pas lu leur biographie?
El famoso.
Trêve de blabla. Nous allons parler de la deuxième partie du tome 5 de La Tour Sombre, les loups de la Cala, écrit par Stephen King, sous le nom de Stephen King. Sorti aux États-Unis en novembre 2003 et en France en septembre 2004. Toujours traduit comme la première partie par Marie de Prémonville, et le nombre de pages n'a pas changé. Chez J'ai lu, c'est 668, chez Grant aux États-Unis, c'est 714, et les livres audio font respectivement 32 heures en français et 26 heures en anglais. Sachant que c'est un peu plus, mais bon.
Je vous laisse.
Et le résumé de cette partie-là, ben, c'est en une minute, c'est tagada, tagada, voilà les Dalton.
C'est exactement ça.
Oui, oui.
Bah avant, il y a quand même un prêtre qui raconte sa vie.
Oui,
avant,
mais ça,
pendant un peu tout le temps.
En une minute, voilà.
C'est le fil rouge, on va dire.
Le prêtre qui raconte sa vie, c'était le résumé de.
Oui, l'épisode précédent.
Voilà, c'est tout pour moi. Ah non, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième partie? Grand Poil.
Quel bonheur! Quel bonheur! J'adore. Ah bah oui, tu peux faire les gestes en même temps que moi. Hein. Donc oui, non, c'est un grand kiff d'arriver au bout de celui-là. En plus, on va rentrer dans la partie que j'ai lue qu'une seule fois de La Tour Sombre après, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner parce que je me souviens pas précisément de tout ce qui va se passer. Bon, en tout cas, celui-là, c'est vraiment le...
Qu'est-ce qu'il a mis sur son fond?
Je sais pas, c'est pas assez grand. Ouais. C'est jouer avec la caméra. Alors, attends.
En fait, on est Julien.
Alors, les blagues visuelles, Julien, ça ne se fait pas quand on enregistre.
Il y a marqué Roland Cœur. Roland, c'est vrai. On est tous in love de Roland, sauf
même
peut-être
Pomme.
Quelques-uns.
Ah ouais.
Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu que Pomme soit in love de Roland. Mais non, vraiment une.
Je n'ai strictement rien dit.
Non, c'est vrai. On sait. Hein. Je sais plus ce que je disais. Donc c'était bien. Je passe la main.
Ok, Julien,
passe la plume.
Pour cette deuxième partie.
La plume.
Alors j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà aimé la première partie. J'ai dévoré, voire défoncé la deuxième partie puisque je l'ai lu en deux jours et je me suis pas arrêté en fait quand on a commencé la première partie. Et un poil déçu par la fin. Mais je me dis quand même, on dit souvent que Steve Wu, il fait des trucs très longs pour pas raconter grand-chose. Là, in fine, il prend quand même donc du coup 668 pages pour raconter une bataille. Mais j'ai pas vu le temps passer.
Et enfin, la bataille, elle arrive quand même à la toute fin.
Ça se passe vite.
Ouais, elle passe fin. Ah, mais il y a la préparation paiement de 614 pages. Quoi.
Oui, il y a la vie du père Callahan, sa vie, son œuvre.
Et
les angles avant.
Ouais, non, enfin, c'était bien et j'ai hâte de voir la suite. Et j'aime bien aussi juste les interconnexions qui vraiment apparaissent à la toute fin.
Pomme, qu'en as-tu pensé?
Bah moi j'ai beaucoup aimé cette deuxième partie, beaucoup plus que la première. Je l'aurais dévoré aussi si j'avais pas eu à prendre des notes. Et pourtant, les conditions de prise de notes étaient vraiment pourries sur cette deuxième partie, puisque mon bouquin est sur Kindle et il n'y a pas le nombre de pages, et je pensais qu'il me restait moins de pages que ce que je croyais. Et je pensais qu'on enregistrait le 30 juin alors qu'on enregistre le 24, et 6 jours d'écart sur le planning, je peux vous assurer que ça fait une différence notable.
Ouais, tu t'es fait 250 pages en 3 jours, quoi.
Non, même pas. J'ai fait... plutôt en 2 jours.
Bien,
oui,
ouais.
Parce qu'on était à peu près au même niveau, et moi aussi, j'étais en stress.
Ouais.
Avec la prise de notes en plus, ouais, bravo.
Ouais.
Heureusement, j'ai pas eu une journée de travail trop chargée, donc j'ai pu gruger.
Et on remercie ton chef, on lui fait un bisou.
toi, c'est tout bête, mais si aujourd'hui j'avais eu la même journée de travail qu'hier, ce soir on enregistrait pas, j'aurais pas pu finir. Tout bêtement. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Même les passages qui pourraient être de la description dont on se fout, il y a parfois des discussions entre les personnages. Ou bon, voilà, ça pourrait être du remplissage, en fait, non, ça passe bien, ça crée le lien, ça.
Je trouve que vraiment
ça ancre un peu plus dans le dans le truc.
Tout est dans la construction de l'univers et à sa place, quoi. Il y a pas vraiment de déchets. Même les trucs qui paraissent un peu longs, ils finissent par s'en servir à un moment ou à un autre.
Même l'histoire de Callahan, elle était plus acceptable. Bon, elle m'a fait chier à un moment donné, c'était un peu long. Mais j'ai plus accepté la deuxième partie de l'histoire de Callahan que la première. La fin, en fait j'arrive même pas à avoir un avis sur la toute fin parce que j'étais contente de finir, donc rien que pour ça, j'étais contente que ce soit la fin. Ça sent le... Je vous envoie plein de trucs d'un coup parce que derrière il va y avoir un autre tome, quoi, quand même.
T'as l'impression d'arrêter à une fin de chapitre.
Mais en même temps, c'est normal parce que la manière dont finit ce bouquin, contrairement au précédent, il clôt une histoire. Donc il faut impérativement ouvrir sur un autre truc, sinon tu vas pas acheter le bouquin suivant, je trouve.
Ah oui, ça raccroche. Fait un bon cliffhanger.
C'est ça, on raccroche enfin avec l'histoire de la tour qu'on avait un peu laissée de côté.
Surtout en plus, la fin, on en reparlera, je pense, à la fin. Et moi, j'ai un mot à dire dessus dans ma partie. Mais en plus, à ce moment-là, il avait complètement en tête vers quoi il allait aller après. Ce qui n'était pas forcément le cas pour les autres où il finissait. Et puis, il mettait le truc de côté. Et puis, il y repensait 6 ans après, quoi.
Ouais. Voilà.
Et ben, justement, Émilie.
Oui, c'était trop bien. Moi, j'ai adoré. J'avais déjà adoré la première partie, j'ai adoré la deuxième. Comme le disait Grand Poil, autant je trouve que au nombre de pages, il se passe pas tant de choses que ça, mais c'est vachement immersif, quoi. Tu décroches pas, t'es dans l'univers, tu les vois, tu les entends, t'as les odeurs. J'ai adoré et j'ai tellement aimé que j'ai pas réussi à pas commencer le tome 6. Que j'ai attaqué goulûment.
D'ailleurs, je reprendrai mon analogie de la dernière fois, du western, de la construction, de découvrir la vie des habitants qui vont donner un but aussi aux quatettes pour leur venir en aide, qui est vraiment à fond dans cette histoire-là.
Ouais, c'est très bien décrit, hein. Tu vois tout quand tu lis, t'as vraiment l'impression, oui, depuis le tome 2 ou 3, t'as vraiment l'impression d'avoir les images sous les yeux, quoi.
Urde, qu'est-ce que tu as pensé du bouquin, enfin de cette deuxième partie?
Moi, je vous rejoins un peu tous, très contente de la première et de la deuxième partie. Ce que j'ai bien aimé dans la deuxième partie, c'est un peu un détail, c'est que les personnages, ils ont des trucs pas cool, quoi. Genre, ils sont énervés, ils pensent des trucs vénères et tout ça, j'ai trouvé sympa. Et entre eux aussi,
il y a des explosions, mais dans les têtes.
C'est exactement ça. Ce qui me paraît logique, en fait, parce que du moment que t'es plus que deux personnes, c'est impossible qu'il n'y ait pas des petits crissements entre les gens. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt réaliste. Et la peur que j'avais en voyant défiler les pages, c'est cette fin, comme on a dit. Et au final, ça passe. Donc, contente de la fin, quand même.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu qu'il me restait entre 40 et 50 pages et où on en était, je me suis dit, mais il y a plusieurs possibilités. Soit il y a des trucs de l'histoire qui se finissent pas dans ce livre, soit il a complètement bâclé la fin. C'était l'un ou l'autre.
C'est ça.
On vous dira plus tard ce que c'était. Dans 2 heures, vous devez.
Non, il y a Julien d'abord.
Moi, j'ai parlé.
Non, il a dit.
T'as parlé ?
Ouais.
Oui. C'est ton tour.
Ah, oui. C'est à moi. Tout a été dit. Hein. Très content de cette deuxième partie. Bon, je suis quand même toujours un peu plus critique que vous, je pense, sur la partie de Callahan. J'aurais préféré qu'il en fasse un ou deux romans
et
beaucoup plus détaillés. et que ils raccourcissent un petit peu tout toute l'histoire du père Callan dans ce tome-là pour ne garder que l'essentiel qui est vraiment nécessaire à l'histoire. Même si c'est vrai que au final tout se recoupe un petit peu. Et pareil que vous, la fin, comme j'étais en livre audio, j'étais en voiture et je l'ai pas vu arriver et que c'était la fin. Et là, surprise, il y a le post, j'ai eu le postface.
Attends, on a changé l'histoire. C'est
dit par Stephen King lui-même. non, c'était vraiment vraiment super. Notamment, il me semble que dans le livre audio américain, le postface par Stephen King fait un hommage au doubleur, au narrateur, parce que le narrateur est mort.
Il a eu un accident.
Ouais, il est mort. Il pourra pas faire les.
Ah non, il est pas mort. Il a eu un accident et il peut plus enregistrer de livre audio.
C'est le narrateur français qui ne peut plus.
C'est oui, le narrateur français est décédé. Mais d'ailleurs, suite à cet accident, il a. Alors, j'ai plus le nom de la fondation là, mais avec sa femme, ils ont plein de fondations et ils en ont monté une en particulier pour aider les artistes qui ont des accidents de la vie ou de la route, etc., à pouvoir payer les frais de santé, pouvoir essayer de continuer à exercer un peu leur métier.
Une mutuelle des artistes.
Un petit peu. Mais c'est suite à cet accident là qu'il a créé cette fondation là.
Et ça, c'est dans le bouquin. C'est pas rajouté spécifiquement dans le dans l'audio, quoi.
Oui, la postface est liée aussi.
Oui, parce que après s'être tapé la fin de ce bouquin, j'ai quand même lu la postface où il raconte que c'est son ami depuis un nombre d'années incroyable, qu'il a eu son accident de voiture un mois après avoir appris qu'il allait être papa.
Tu ne sais pas, mais cette postface, c'est le tome 6 qui commence.
Non, mais ouais, c'est ça.
Non, parce qu'en plus, après la postface, j'ai eu le début du tome 6 en livre audio.
Il est pas, il existe pas encore en français bientôt. Ben on sort cet épisode mi-juillet, ça sera le tome 6 viendra de sortir ou va sortir. Et ça tombe bien pour nous. Du coup.
Eh oui.
Et ben voilà, je pense que tout est bon.
Ben je vous propose qu'on attaque ce résumé par un previously de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent.
Vous n'êtes pas prêt.
j'ai peur.
Previously on Lost. Plutôt previously on la tour sombre, les loups de la Calaga. Previously
on... Les loups de la Calaga.
C'est mieux. Donc, dans la première partie du tome 5, nous avons rencontré un paysan qui monte sa sœur crânée pour faire pousser des patates.
Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates?
Un robot qui aime faire bader les humains.
Moi je vais te faire pleurer mon pote. T'es un minable, un rebut de la société, t'arriveras jamais à rien. Oh la vache, c'est plus dur que je croyais de faire pleurer quelqu'un.
T'as fait de ton mieux, Bender.
Me gonfle pas, la greluche.
Et un prêtre qu'on a déjà vu dans un épisode précédent.
Amen. Amen.
Quand au fond de ton lit, tu ne crois plus en toi.
Là, on a nos pistoleros qui débarquent, et ça tombe bien, car dans 30 jours, les loups vont venir voler des bébés.
Je comprends rien. Je n'y comprends absolument rien et ça ne me plaît pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche.
Où sont mes pouces? Mais où sont passés mes pouces? J'ai envie de sucer mon pouce, moi!
Dans leur village, il y a un délire avec une plume un peu bizarre.
Lourd comme une plume.
Et nos héros mangent des boules rêves qui les envoient vadache, comprendre, planer à 2000.
Amen.
Et d'ailleurs, Susanna, elle tripe un peu plus que les autres, notamment avec une certaine Mia.
Toute l'après-midi, ça fait depuis ce matin que je cherche ça. Tu sais ce que je veux? Give it to me. Sois dedans. Si tu veux aller manger, si tu veux aller dormir, c'est now. C'est now. Give me the text. No text, give me the text and give me the steps. Donne-moi les...
Mais pas pour toutes les femmes de sa vie, non. Pour accoucher de son bébé. Pendant ce temps-là, le prêtre raconte sa vie et Pomme adore le résumé.
All we ever do is go, yeah, yeah, yeah.
Et on avait laissé un vieux nous raconter encore sa vie et son combat contre les loups.
Mon histoire commence en 1900 Tirli 2. Fallait qu'on dise Tirli parce que le Kaiser nous avait volé le mot vin. J'ai poursuivi Zvorien pour lui reprendre, mais j'ai abandonné au bout de Tirli 7 kilomètres.
Tirli, c'est un genre de top.
T'es pas joyeux, gros lard, trop de gâteaux, c'est ça ton problème. Maintenant, j'aimerais m'écarter du sujet que j'avais préparé pour vous raconter comment j'ai inventé les water closets.
Water.
Voilà, on peut y aller.
Nous étions donc partie 2, chapitre 6, petit point 8. Et dans l'épisode précédent, donc comme vous venez de l'entendre, il s'est passé plein de choses, et on était sur le point de savoir ce qu'il y a sous le masque de loup. Sauf que papy, à ce moment-là, il marque une pause tellement longue qu'Eddie pense qu'il est retourné à sa sénilité. Mais non, il semble reconnecter au bout d'un moment. Il a peur de parler. Son fils, le père de Tian, qui était au courant, lui a dit de ne jamais en parler à personne. Qu'il ne faut pas que les loups apprennent que quelqu'un sait. Comment les loups auraient pu le savoir, se demandait Eddie. Qui, à la Cala, aurait pu leur parler? Mais il préfère garder cette question pour lui. Le vieux se penche et lui murmure alors ce qu'il sait, en 19 mots. Et là, tout devient évident pour Eddie.
Mais pas pour nous!
Mais non, il aurait dû deviner tout ça, et ça explique tous les chevaux gris. Par contre, nous, on peut s'asseoir sur la révélation.
C'est ce que je l'ai marqué, hein. Et nous, on sait toujours pas, bordel!
C'est vrai.
Le vieux continue de parler, Susanna vient de les rejoindre. On apprend que le grand-père et le petit, donc le petit c'est Tian, mon petit-fils quoi, sont brouillés à cause de la mort tragique du père de Tian, à l'endroit où Tian lui avait dit de creuser un puits. Bon, drame familial. Chapitre 7, Nocturne, la fin. Mia a la dalle. Elle parcourt le château dans lequel elle croit se déplacer à la recherche du banquet, mais il n'y a rien nulle part. Dans la cuisine, elle finit par boulotter un rat vivant et un petit cochon qui était dans le four. Alors toute cette partie-là, je l'ai lue, j'étais en train de courir, j'étais partie pour courir une heure sans m'arrêter. J'étais servie pendant ma course.
Il y a un gros changement d'ambiance. La première fois qu'elle a visité le château, c'était tout beau, tout propre, il y avait un grand buffet avec plein à bouffer. Là, c'est tout délabré, tout pourri, même la nourriture, elle est pourrie au possible, elle trouve plus rien, quoi.
Enfin, on espère que c'était vraiment un cochon, parce que pendant un moment, elle a cru que c'était un bébé.
Et nous aussi, hein.
Oui.
Oui, parce que elle a besoin de manger pour donner de la force à son petit gars, qui va naître. Tout ça se passe sous les yeux de Jake, qui est en calbute dans un coin de la pièce, qui découvre là, le monstre et que Susanna est enceinte. Absolument, un point calbute, je l'avais même pas relevé. Mia, parce que bon là ça sert à rien de l'appeler Susanna, retire sa chemise et voit que dessus il y a une pub pour une charcuterie qui s'appelle Le Cochon du Sud, l'ex et 61e. Les meilleures côtes de bœuf de New York. Le Cochon du Sud, ça parle à Mia, mais à nous, normalement ça nous parle aussi. Qui se
C'est
souvient
une petite rêve d'un resto qu'ils ont croisé à New York, justement, près du terrain vague.
Si je me souviens. Alors, non, c'était écrit sur la palissade.
Sur une affiche.
C'était pas d'ailleurs le terrain où il y a la rose, c'était pas une boucherie, charcuterie.
Oui, mais ça c'était... s'appelait Tom et Jerry et c'était de la charcuterie
fine, ouais.
Non, c'était écrit, il y avait sur la palissade, il y avait
une pub
un poème
pour le cochon
cryptique.
Du
sud. Non, un poème cryptique qui commençait par Susanna Millot.
Ah, j'avais oublié le cochon du sud.
Bref, Jake voit ça et il se carapate. Pendant tout ce temps, Eddie est assis sur leur couche, et je pense qu'il doit être content de dormir dans la grange des Jafford et pas dans leur maison. Il sait que Mia a pris le contrôle et qu'elle est en vadrouille quelque part dehors. Quand il s'est réveillé et qu'il l'a vue dehors, au loin, il a compris que c'était Mia qui était avec eux quand ils sont allés vadache à New York. Et notre Eddie, là, il admire Mia et il culpabilise. Elle est tombée enceinte lors de son combat sexuel contre le démon pour permettre à Jake de passer la porte et de les rejoindre dans l'entre-deux-mondes. Eddie se dit que s'il était allé plus vite à ce moment-là, s'il avait été plus efficace sur sa tâche, tout ceci ne serait pas arrivé.
Toujours un problème de précocité. Hein.
Non, c'est l'inverse. Mais il était en train de faire quoi là? Il est en train de tailler la rose.
Il taillait une clé. Plus.
Ah oui, la clé, oui.
Mais oui, il taillait la clé pour sauver Jake.
C'est pas dit, hein, parce que en fait, à partir du moment où elle s'est occupée du démon, c'était plié, quoi.
Certes.
Oui, mais bon, c'est toujours bien de rajouter une dose de culpabilité quand il n'y en a pas besoin. Ça occupe.
Puis comme ça, ça permet d'avoir de la culpabilité et du coup, de se renfermer sur soi-même et de ne pas communiquer.
Oui, bah oui, et puis du coup, ça permet d'écrire des histoires, parce que si tout le monde communiquait facilement, on n'écrirait plus d'histoires.
Ah, bah, les quiproquos, c'est source de scénarios depuis des millénaires.
Alors qu'il réfléchit à quel bobard inventer si Susanna se fait griller dans cet état par les Jafford, il l'entend revenir et boulotter un des porcelets vivants. Enfin, il espère que c'est bien un porcelet, parce que au vu du cri, ça pourrait très bien être un bébé.
Ouais, lui aussi, il a peur que ce soit un bébé. Hein.
Ouais. Bon, il est sûr que c'est un porcelet. Enfin, il est presque. Il sera quand même rassuré demain quand il verra tous les enfants Jafford. Mia vient se recoucher après son festin et se rendort directement. Et ça a été un peu plus long pour Eddie. Quand Jake se réveille en sursaut au milieu de la nuit, il a du mal à se rappeler d'où il est. Dans la tente, sur la colline, avec son copain Benny. Il se rend vite compte que ce qu'il vient de voir, Susanna, enceinte, dans la cuisine d'un château en train de boulotter un rat vivant, n'est pas un rêve. Il l'a vraiment vu faire ça. Il doit absolument en parler à Roland à la première occasion. Tout à coup, une certitude le rend terriblement triste. Roland est au courant de tout ça, et Eddie aussi, c'est sûr. Et ils ne lui ont rien dit.
Ouais, il comprend avec son Shining, il se rend bien compte que aussi, enfin, c'est comme ça, je pense qu'il a vu les événements, qu'il se rend compte que tout le monde est au courant, sauf lui. Et pour lui, le cathète, il est brisé à partir de ce moment-là, enfin, depuis le moment où ses secrets sont apparus. Pour Jake, le cathète, il est foutu, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Il comprend que personne n'en a parlé à Susanna pour la protéger et être sûr qu'elle sera d'attaque quand les loups arriveront à la Cala, mais qu'on lui en parle pas à lui, il l'a un peu de travers. Pour Jake, le fait que Roland garde ce secret est une erreur terrible, parce que ça met à mal le cathète, donc c'est ce que tu viens de dire, grand poil. Et en même temps, il se dit que lui et Eddie sont des adultes et qu'ils savent ce qu'ils font. Puis, il se rappelle des adultes qui l'ont entouré toute sa vie et se dit que le statut d'adulte ne confère pas la sagesse.
Il n'avait pas d'être bons exemples non plus.
Non, entre ses parents et tout ça. Pour Jake, le cathète est mort. Donc pour Jake, le cathète est mort. Callahan les avait comparés à une roue qui roule vers son but, mais pour lui, la roue est à plat.
Ouais, la roue tourne à tourner.
Ça va, femme.
Ouais, mais non, mais parce que vous envoyez des messages en parallèle et le problème, c'est que comme c'est pas sur le même écran, si...
C'est pas grave.
Non, c'est pas pour toi.
Si c'est pour toi, on te fera des signes s'il faut que ça t'intéresse.
C'est sur toi, mais c'est pas pour toi.
Ouais, bon, ça, c'est sûr que tu vas bien les...
C'est rassurant.
Non, c'est... bon, je m'en fous, j'ai l'habitude, vous êtes méchants. Alors, il est aussi certain que la grossesse de Susanna n'est pas le seul secret que garde Roland. Jake est un peu effondré de se rendre compte de tout ça. Surtout qu'il a bien en tête que le cathète peut battre les loups, mais pas dans cet état. Il se dit que tout raconter à Susanna est le seul moyen que tout redevienne comme avant. Et puisque Roland n'est pas capable de le voir, c'est lui qui le fera. Finalement, il décide d'essayer de convaincre Roland d'abord. À ce moment-là, Hoth rentre la tête pour tirer son compagnon humain vers l'extérieur. Il rentre la tête dans la tente. Jake le suit de bon cœur. Hoth l'amène jusqu'à un promontoire d'où il voit le fleuve et, sur la rive, Andy le robot et le père de son copain Ben. Son copain Benny, parce que le père, il s'appelle Ben, alors on va essayer de bien les différencier.
C'est Slightman l'aîné et Slightman le jeune, quoi.
Ouais, autant te dire que Slightman, je l'ai pas écrit souvent. Trop relou.
Ils font une soirée compote.
Andy est censé les surveiller. Donc, pas déconnant qu'il soit dans le coin. Et Jake pense que le père de Ben est venu voir si tout va bien et qu'il discute loin de la tente pour ne pas les réveiller.
Sauf.
Mais contre toute attente, le père de Benny avance dans la rivière, plein est, alors qu'Andy remonte le long de la rivière.
Et plein est, c'est la direction de Tonnefoudre. C'est ce qui nous est bien précisé à ce moment-là aussi.
Ok. Hoth demande à Jake s'il compte en parler à Roland. Jake ne sait pas. Alors, parce qu'en fait, là, Hoth, il parle à Jake par le Shining, je suppose, il doit plus ou moins utiliser ce pouvoir-là, tant qu'à faire.
Oui, ils se comprennent.
Bah, ils parlent aux animaux, oui, ils se comprennent.
Il ne veut pas causer de problème au père de Benny, mais il n'est plus étonné d'entendre Hoth discuter avec lui par la pensée. La première fois, ça lui avait fait bizarre, mais non, bon. Jake finit par se recoucher, tout perdu et tout triste. Chapitre 8. L'épicerie de Took, la porte dérobée. Le lendemain, Jake demande à Roland de lui parler d'Andin. Expression typique qui veut dire, prenez vos petits carnets, parler à cœur ouvert et se soumettre aux ordres de son Din suite à ça. Roland est super étonné que Jake connaisse ce terme, et Jake explique qu'il capte des mots et des expressions dans les pensées de Roland, mais qu'il ne le fait pas exprès. Roland croit Jake sur ce point, mais se promet de faire quand même plus attention.
À ce qu'il pense.
Jake lui... Ouais.
Faudrait pas que Jake se balade dans sa tête.
C'est ça. Jake lui dit qu'il est au courant pour Susanna et qu'il ne comprend pas pourquoi Eddie et lui l'ont tenu à l'écart. Roland précise qu'en réalité, il ne voulait en parler à personne, mais qu'il fallait bien prévenir Eddie au cas où il se réveille quand elle part en vadrouille. Jake comprend pour Eddie, mais il ne comprend pas pourquoi ne pas en parler à Susanna. Pour lui, le cathète est détruit par ce secret. Roland botte en touche en parlant du cas, Jake s'en rend compte et est un poil déçu. Mais Jake, il grandit, il se rend compte que les gens autour de lui, les adultes, sont décevants.
Il se rend compte, enfin, nous aussi on se rend compte que même Roland est perdu et c'est pas très rassurant pour la suite de nos aventures là.
D'ailleurs, non, ben, là, Roland, ouais, Roland il s'en rend compte que il fait de la merde quoi. Et donc il décide d'être sincère. Il ne sait pas quoi faire. Il demande à Jake s'il a une suggestion. Jake pense que c'est du sarcasme. Pour Roland, cette incompréhension entre eux prouve que Jake a raison sur leur cathète et c'est la cata.
Non, c'est la cala.
Le ton monte un peu entre eux. Jake a failli parler à Susanna sans l'accord de Roland. Outrage ! Outrage !
Trahison !
Alors moi, dans tout ce passage, je trouve qu'il y a des putains de relents de mouvements sectaires, quand même.
C'est,
les membres
c'est
du
pas
cathète...
Du, c'est, non, c'est, alors là, pour le coup, je suis pas d'accord. C'est pas de la secte. C'est un groupe uni qui est soumis à son chef, mais c'est pas une secte. C'est une manière de remarquer. On parle. Ça fait secte, hein. Faut pas se mentir. Mais c'est de la hiérarchie c'est de la hiérarchie médiévale quelque part.
Ouais.
C'est pas oui, juste voilà. Un problème secte, c'est pas juste de la secte, c'est de la hiérarchie médiévale.
Là, ils ont même pas le droit de parler sans avoir l'autorisation du grand chef, quoi. C'est.
Mais ça a du bon l'autorité un petit peu.
ça me choque pas dans le sens secte. Ça me dans l'univers qu'ils ont, dans l'univers d'où vient Roland justement. Ça me choque pas ces ordres, cette manière de penser, de réfléchir et d'agir.
Après, c'est la vision qu'a Roland du cathète, parce qu'il a été éduqué comme ça. Mais compris jusqu'ici des cathètes, c'est pas forcément soumis à la hiérarchie de Gilead. De Gilead.
Oui, Gilead.
Enfin bref, Roland lâche que la vie était plus simple quand ils n'étaient pas là, tous là. Alors ça, Jake, ça
oui,
le
quand
finit.
Il était mourant sur la plage, en train de se faire bouffer les doigts.
Avec deux doigts en moins.
Aucun d'eux n'a demandé à être là, et pour rappel,
Disque chic.
Et pour rappel, Roland l'a déjà laissé mourir pour continuer sa quête de la Tour Sombre. CF, le tome 1, notre épisode 1 sur le sujet. Allez l'écouter. Ne le lisez pas, mais allez l'écouter. Donc Roland finit par proposer de parler à Susanna. Lui, Eddie et Jake, dès qu'il la retrouve, de tout lui raconter sur sa grossesse et sur Mia, et de ne plus parler de tout ça entre eux tant que ça ne sera pas fait. Jake est soulagé, mais pas longtemps. Roland lui rappelle qu'il pense que c'est une idée de merde, mais qu'il est maintenant obligé de le faire puisque Jake a remis en question son autorité. Non, je suis désolé, mais c'est totalement malsain comme... Comme relation.
Oui, ça s'appelle l'emprise.
Mais oui, c'est ça. Un peu comme dans une secte.
Mais moi, je suis pas d'accord, en fait. Il faut bien un chef.
Ouais, mais un chef, il est pas obligé de te faire culpabiliser et il peut assumer les choix qu'il fait.
Ouais, mais c'est Roland, c'est pas...
C'est Roland, il y a le cas, enfin voilà, c'est... Je suis pas d'accord pour autant, mais ce serait trop le bordel s'il y avait pas Roland, en fait.
D'ailleurs, voilà, je l'ai écrit. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, mais Roland est un sale con. Donc, en gros, Roland ne sait pas quoi faire. Jake a un avis. On suit celui qui a un avis. Et comme le gamin est doué avec le Shining, Roland lui demande d'être concentré sur les pensées de Susanna une fois par jour Et puis, bah, s'il y a un changement, peut-être un peu plus. Jake se plie à cette demande. Mais en fait, après, on revient jamais sur ce truc-là, en fait.
Non, bah, il n'aura pas l'occasion. Hein. Il passe quasiment aucun moment ensemble.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Tu sais, c'est un peu le moment où il donne une mission pour le rassurer un peu, pour lui donner un but, quelque chose à faire, et puis bon... Bah...
Et pour l'avoir là, hors de ses pattes le temps qu'il gère le problème ouais. Susanna, quoi.
Donc Jake se plie à cette demande. Il a demandé l'avis de Roland Dan Dean. C'est la règle du jeu. Il doit se plier à la demande de son Dean. Mais il ne se retient pas de lui dire qu'il a l'impression d'avoir été piégé et que Roland fait tout reposer sur ses épaules à lui. Roland ne le dit pas, mais il est complètement perdu dans cette affaire et ça l'arrange que quelqu'un prenne une décision. Super, super. Donc ils parleront à Susanna avant l'arrivée des loups ou avant de devoir se battre contre Balthazar. Parce que là, à ce moment-là de l'histoire, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans quel ordre. À la ferme des Jafford, tous les enfants sont là et il manque un porcelet. Donc c'est bon.
Tiens, pas un bébé.
On conclut. Elle a pas mangé un bébé. Tiens, on conclut que c'est un chien errant qui a dû boulotter le porcelet. Donc quand Roland arrive, il pose à Zalia la question qui engage les pistoleros à aider les gens de la Cala. Demandez-vous assistance. Zalia répond que oui.
La fameuse troisième question.
Oui. Zalia répond que oui. Et Eddie trouve logique que ce soit une femme de la vie de tous les jours qui soit porte-parole des autres et pas un des riches fermiers. Il est décidé que Zalia participerait en lançant le plat et qu'elle apprendrait son savoir à Susanna. Le cathètre part. En chemin vers la ville, Roland part de son côté vers le village des Manis. Le chef doit lui montrer la grotte de la porte. Roland pense que la porte plus la 13e noire égale une ouverture vers n'importe quel où et n'importe quel camp. Il demande au trio d'aller à l'épicerie de Saitouk et leur donne des sous et des grenats sortis d'une bourse qui paraît vide. Il faut qu'ils restent tous les trois à glander dans ce coin-là et rendez-vous au soir chez le père Callahan pour la suite de son histoire. Ouais, il nous tarde.
Super.
Ils se remettent tous en route. Voilà les potes de Roland chez l'épicier, qui est un sombre connard et puis qui est raciste aussi. Les trois se débrouillent bien pour le remettre à sa place, tranquillement, au vu et au su de tout le monde. Les spectateurs viennent un peu leur parler, et une fois leur emplette faite, ils vont squatter devant l'épicerie. Roland, alors là on part de l'autre côté. Roland,
alors là je me suis imaginé Jay et Silent Bob devant l'épicerie, en mode, ils font n'importe quoi, ils dansent.
J'ai pas la ref.
La tête.
Putain, cette tête.
La plus grande déception de sa vie.
Non, t'aimerais pas en plus.
Bon, d'accord.
Vache.
Restons-en là, alors. Roland le pistolero et Enchik le mani palabrent sur le chemin de la grotte. Roland transmet le message de Margaret, la fille d'Enchik, qui a choisi d'épouser un non-mani et donc de renier son clan. Pour rappel, le message c'est en gros « je ne regrette rien ». Voilà. Enchik savait que Roland l'avait vu et avait assisté à une démo de lancer d'assiettes aussi. Les manis ont des moyens de savoir des choses. Pas loin de la grotte, alors que la falaise tombe à pic, Roland a la conviction que s'il devait mourir là, Eddie reprendrait le flambeau de la quête de la tour sombre. Dans la grotte, on entend comme des cris humains, tout au fond. À l'entrée, il y a une porte, comme celle de la plage par lesquelles sont arrivés Susanna et Eddie. Dessus, il est écrit « porte dérobée ».
La pas même loin chose derrière. Que ce sur le coffret de la 13e noire.
Ah oui.
Oui.
Ah, c'est pour ça qu'il y a un sens d'utiliser la 13 noire avec
oui,
la
oui, que la 13e noire, elle permet de les envoyer Vadash au travers de la porte, comme ils voudront et où ils voudront, en
okay.
fait.
Ok.
Bah du coup, non, elle les envoie pas Vadash à travers la porte.
Alors, c'est plus que Vadash, oui, mais c'est...
Elle
oui.
les envoie pour de vrai. Pas loin derrière, il y a un trou... Pas loin derrière, il y a un trou plutôt très profond. C'est de là que viennent les cris. Roland entend sa mère le supplier de ne pas la tuer. Bon voilà, là tout au long de l'histoire, à chaque fois que quelqu'un rentrera dans cette grotte, il entendra des cris des gens qu'il a connus par le passé. Et ils disent que des trucs pas sympas.
Il entendra Walter aussi, hein. c'est pas vraiment des proches forcément dans le bon sens du terme.
Oui, des gens qu'ils ont connus. Bah, d'ailleurs voilà, il entend la voix de son père, il entend celle de Walter. Mais il pense que ce sont des fantômes, que les voix viennent de sa tête.
Alors, juste l'avertissement de Walter est quand même pas mal, je pense, à retenir. C'est qu'il dit « Il vaut mieux vaut abandonner et mourir plutôt que de découvrir que la pièce tout en haut de la tour sombre est vide. » En gros, il essaie de lui signifier que sa quête, elle sert à rien. En fait, les voix sont aussi là pour attirer les gens, pour les faire sauter, pour qu'ils crèvent quoi, dans le gouffre.
Ah ouais, je l'avais pas compris comme ça. Ok.
Bah, tu veux, avec le frère d'Eddie, c'est un peu ce qui se passe au final. Il essaie de le repousser quelque part dans ses travers, de lui montrer qu'il sert à rien. De...
Ouais, mais le trou dans la grotte, j'avais pas fait le lien entre essayer de les attirer. De les... Enfin, pff, non, mais c'est. Voilà. Pas...
C'est la. En fait, c'est une grotte, il y a un trou.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas cette porte qui est arrivée qu'à l'âne. Roland va pour l'ouvrir, mais elle reste fermée. Dans une autre grotte, le Mani a trouvé une fois une machine qui délivre un message. Ça leur a dit de venir dans cette grotte-là pour trouver la porte et un homme. En fait, il s'agissait d'un magnétophone. Ça, on le comprend dans la description qu'il donne, et Eddie comprend que c'était un magnétophone. Quand ils ont trouvé Callahan, la porte était entrouverte, et la boîte avec la boule noire aussi. Roland pense que cette boule est l'œil du roi cramoisi et qu'il est le gardien de la tour, ou qu'il pense qu'elle lui appartient. Roland pense aussi qu'avec la 13e noire, il pourra ouvrir la porte, donc ça c'est ce qu'on a dit, et il repart loin de cet endroit où l'on entend les morts. Roland repart chez Callahan. Chapitre 9. La fin du récit du prêtre. Entre parenthèses, dérobé.
Le plus grand poil qui lit les chapitres.
Bah, c'est vrai, j'ai oublié.
Elle m'a pas laissé faire.
Ah oui.
Bah, ça avait l'air laborieux la dernière fois, et du coup j'ai...
Ça l'obligeait à suivre un petit peu.
Non, en plus, je note tous les chapitres pour savoir où on en est. C'est le seul que j'ai pas noté. Et tu vois, genre là, c'est le seul que j'ai pas pris. Je note tous les chapitres, je te jure.
Tu veux que je te laisse dire les chapitres ?
Non, j'ai plus envie.
Très bien. Eddie, Jake, Susanna et Ott reviennent chez le prêtre où Rosita leur a préparé des lits pour une petite sieste qui fait du bien. Ils ont passé 5 heures à parler à tous les gens de la ville devant l'épicerie Took. Tout le petit monde profite de la chance qui leur est offerte de pioncer dans un lit. Avant de dormir, Eddie voudrait raconter à Susanna ce que le grand-père lui a dit, mais celle-ci refuse. Elle lui dit de raconter ça aux autres, mais pas à elle. Ou pas maintenant, en tout cas. Quand
c'est
Roland arrive...
Rosalita ou Rosita ?
J'ai mis Rosalita ? Non, c'est Rosita ?
Non, c'est moi qui me donne.
Ou c'est Rosalita.
C'est Rosalita ?
Ah.
Eh ben écoute, elle va s'appeler Rosita pour le temps du résumé.
Ça devient mieux.
Ça ira très bien.
Si quelqu'un veut faire une modification en masse du mot Rosita par Rosalita, qu'il le fasse.
Non, vas-y. Vas-y.
De toute façon, c'est Rosa, son vrai prénom, et ils l'appellent tous Rosalita. Mais c'est Rosa, son vrai prénom. Donc quand Roland arrive, Rosalita l'emmène dans sa cabane pour le badigeonner d'huile qui soulage les rhumatismes et puis aussi pour Ken. Le soir, le père Callahan...
Roland et Rosalita,
Le soir, le père Callahan raconte qu'en arrivant à l'hôpital où se trouvait le chef du foyer de nuit pour les alcooliques, donc c'est la suite du récit de l'épisode d'avant, hein, celui-ci lui dit de se tenir loin du foyer parce que les frères Hitler en avaient après lui. Pour Callahan, ils ont été embauchés par les ignobles pour le buter. Après ça, le pote de Callahan meurt, Callahan se casse sur la côte ouest. Petit détail, le pote de Callahan était dans la chambre 577 et 5 plus 5 plus 7, vous avez deviné.
Ça fait comme 12 plus 7.
Par exemple. Ou
Tu le dis toujours pas.
Ou, si.
Alors c'est 5 plus 7 plus 7.
Ouais, oui, c'est 5 plus 7 plus 7. Bah, vous voyez ? Des erreurs comme ça, j'en fais tous les jours à mon travail et ça fait perdre beaucoup de temps. Pour Callahan, le fait que cette addition fasse ce résultat ne veut rien dire de particulier. Bon, enfin, lui, à ce moment-là, ça n'a pas de. Nous, on le comprend dans le récit, mais lui, 19.
Ah, nous,
on l'a
martelé depuis un petit moment, on sait
oui,
que
voilà.
Le 19, maintenant, voilà.
Callahan, il relève à peine le numéro de la chambre à ce moment-là. Eddie dit que si on met tout bout à bout, on en revient à mère. Un mot qui veut tout dire pour lui. Moi, j'ai pas compris qu'est-ce qui fait qu'on en revient à mère, un mot qui veut tout dire pour lui, mais je...
Alors, c'est pas là qu'il explique que mère, c'est les lettres, ça fait...
Ouais, je crois, c'est ce que
les chiffres,
dire,
ça fait mère, mais alors ça doit moins bien marcher en français qu'en anglais, peut-être.
5, 7, 7, ça fait Mozart.
Je sais pas. Il y a une explication de ce style-là, à un moment, je l'ai pas noté, j'avoue.
Ok. Bon. En fait, Callahan n'est pas tout de suite reparti de New York en quittant l'hôpital. Il voulait d'abord repasser par le foyer. Il se souvient d'avoir fait un détour et Eddie se rend compte qu'il est passé devant le terrain vague de la Rose. En 1981, il y avait une palissade de 3 mètres et un grave dessus, mais Callahan ne sait plus ce que c'était. Il faisait trop sombre de toute façon. À ce moment-là, il se fait tomber dessus par les frères Hitler, qu'il surnomme Lenny et George, comme dans le bouquin de Steinbeck, « Des souris et des hommes ». Un peu comme Enfin, nous, on aurait pu dire Minus et Cortex, quoi, si ça nous arrivait aujourd'hui.
Tic-tac.
Tic-tac, il n'y a pas la notion de... Il y en a un qui réfléchit et l'autre...
Et puis surtout, il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit.
Il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit, il y en a un qui réfléchit et l'autre qui agit. Tic et tac, ils sont mignons, mais bon, c'est tout.
Ils sont tous les deux
cons. Joe et Avril.
Voilà, par exemple.
Ouais.
Le plus con des deux lui écrase les testicules à pleine main, ce qui le rend gueulard, mais plus du tout en état de se débattre.
Ça fait mal.
Tout d'un coup, Callan entend un léger son qui vient de l'autre côté de la palissade. Ça lui procure une sensation de bien-être. Les deux brutes l'entendent aussi et décident de se barrer. Ils le traînent dans une laverie vide et l'attachent. Callan essaie de savoir si ce sont des ignobles qui ont demandé à Lenny et George de le buter. Personne ne répond, mais George semble réagir à cette question. Ensuite, il se mange une mandale qui lui pète la mâchoire. Il se refait maltraiter les testicules. J'ai mis le passage exact. Lenny lui attrape de nouveau les couilles, les lui écrase, les lui retourne, puis les tire vers le bas comme un store.
En fait, c'est ça le bruit qu'il a entendu, c'est le pop quand ça saute.
C'est ça.
Ça me rappelle une scène dans un jeu, dans Casino Royale.
C'est ça. C'est à peu près le seul, la
Vas-y,
seule scène que j'ai vue.
Un peu plus à gauche, un peu plus à gauche.
Avec le petit
George
sac.
Le prend.
George
et la chaise percée. George le prend en photo et précise qu'il devra en faire une deuxième. Il dit à Callahan qu'ils ont effectivement été payés pour faire ce qu'ils font, mais qu'on s'en fout par qui. Lenny commence à lui graver une croix gammée sur le front, mais George l'arrête parce que c'est une simple croix qu'il est en train de faire et pas une croix gammée. Et c'est à ce moment-là que la cavalerie débarque. Roland demande si c'était eux. Enfin, j'ai dit peut-être dans le futur que le cathète a débarqué à ce moment-là, mais qu'eux l'ont pas encore vécu. Callahan rigole et dit que non. Le problème, c'est que Lenny tient une lampe devant la tronche du prêtre et qu'il n'a jamais vu de qui il s'agissait. Ils sont arrivés avec un spot de lumière assez fort pour que personne ne les voie. Ils sont deux. Enfin, ils étaient deux. Ils utilisent quelques mots en hébreu, ou en tout cas, ça ressemble à de l'hébreu d'après Callahan. Et l'un d'eux porte une chevalière avec écrit « Ex Libris » dessus. Donc à ce moment-là, ils font fuir les frères Hitler. Ouais. Ils font fuir les frères Hitler. L'un d'eux s'assure qu'ils partent vite et loin pendant que l'autre détache Callahan en lui promettant d'appeler une ambulance et de vérifier que les deux autres ne viennent pas finir le boulot. Callahan veut savoir qui il est, comment il a su où venir et le nom des deux brutes, mais le sauveur ne répond à aucune question. Callahan a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une personne qui a l'habitude de faire ce genre de sauvetage. L'ambulance finit par arriver et Callahan se retrouve dans la chambre 577. Dans laquelle est mort son ami quelques heures plus tôt. Et tout ceci se passe le 19 mai 1981.
Exact.
Ça fait 19.
Et ça fait 19. Pour le cathète, j'étais en train de le calculer. Pour le cathète, il n'y a pas de hasard. Pour Callahan, il faut arrêter de voir des signes partout. Callahan est
sorti. Il n'est pas encore à fond dans le cas et la tour.
Il n'est pas encore dans la secte. Callahan est sorti de l'hôpital pour aller en maison de repos quelques jours plus tard et les frères Hitler ont été retrouvés morts. Une fois sur pied, alors à ce moment-là, il y a tout un passage où Eddie dit « Attendez, comment ça, ils sont morts ?» Moi, en 87, les journaux, ils parlaient encore des frères Hitler, que c'était sûrement eux qui avaient fait des trucs. Et donc, il y a un petit échange sur le fait que, bon, les journaux, ils disent des trucs, faut un peu se méfier, quoi. Tant que ça fait vendre.
Bon, ils étaient peut-être pas au courant non plus, hein. Il y en a qui savent qu'ils sont morts, peut-être pas...
Ouais. Mais bref, une fois sur pied, lorsqu'il cherche à partir de New York, il ne retrouve plus la passerelle qui va vers l'autre monde. Alors il erre, évitant les vampires de type 3 et les autoroutes obscures, et à la recherche d'un boulot en intérim. Il picole comme un âne, et un matin, à Topeka, il se réveille en cellule. Dans
à
sa
Topeka,
cellule...
dis donc.
Comme de par hasard. Dans sa cellule... Ça... Oui.
Non, vas-y.
Non, mais vas-y, je bois un coup d'eau.
J'allais dire qu'en fait, à partir de là, il va y avoir beaucoup de coïncidences avec le trajet du cathète jusqu'à les événements que tu vas nous raconter juste après.
Dans sa cellule, il est seul. Il essaie de se rappeler comment il en est arrivé là, mais il fait une crise de je sais pas trop quoi, il se pisse et il se chie dessus. Il se retrouve par terre comme un gros caca et il repense aux deux personnes qui lui ont sauvé la vie en risquant la leur. Il
une
décide
crise de manque, peut-être.
Ah, j'aurais plus du genre de tétanie. Ou
il est en train de se sevrer de l'alcool, peut-être, ou je sais pas.
Ben non, il se réveille d'une cuite. Il n'est pas déjà en train de se sevrer.
Ben, il a besoin de la prochaine.
Ouais. Enfin bref, il décide de se reprendre et se donne un an, et que si dans un an il est toujours alcoolique, alors il se tuera. Chacun sa deadline. Là, c'est une vraie deadline pour le coup.
C'est un peu radical.
Ça jette un
froid. En même temps, pour des résultats forts, il faut des objectifs forts.
Alors, ça jette un froid, mais il continue son histoire. Après, ça va, il va s'inscrire aux Alcooliques Anonymes de Topeka, puis ça marche pas mal. Mais quelques mois plus tard, il voit le premier signe que les ignobles ont retrouvé sa trace, par les petites affichettes qu'on a déjà vues. Alors, il plie bagage et va à Détroit, dans un foyer. C'est là-bas qu'il se passe la chose, un peu plus d'un an plus tard. Jake devine de suite qu'il s'agit du jour où Callahan est mort. Alors que Callahan ne voit plus de fantômes ou d'avis de recherche depuis quelques mois, et qu'il bosse pour le foyer dans lequel il vit, lui et ses collègues reçoivent une lettre de la Sombra Corporation, qui distribue beaucoup d'argent à plusieurs structures caritatives, dont la leur. Ils ont rendez-vous le 19 décembre 1983. Et c'est le jour de la mort de Callahan, effectivement. Le prêtre pense que les ignobles et les vampires bossent ensemble, d'une certaine manière en tout cas, et que l'on peut retrouver l'origine de tout ceci à Tonne Foudre. Roland valide cette hypothèse. Il fait du Roland Splinning un peu. Le jour du rendez-vous, dans les bureaux de la société qui doit leur filer la thune, tout est classe et classique. Au moment de rentrer dans la salle de conférence où doit avoir lieu leur rendez-vous, le gars qui les a amenés là leur dit « Dieu le Père va vous recevoir » et claque la porte derrière eux. La Callahan se dit que ça pue du cul, mais de toute façon c'est trop tard. Effectivement, dans la salle, il y a 5 ignobles, 7 vampires et un gars qui a l'air d'être le chef et qui a un œil au milieu du front. Tout va bien. Il dit au vampire de se faire plaisir, mais de ne pas tuer Callahan. Alors, le chef dit au vampire de se faire plaisir, mais de ne pas tuer Callahan. Le but est de lui refiler le sida et de le laisser mourir lentement avec ça. Callahan se précipite vers la fenêtre, la brise et saute. Et pour lui, à ce moment-là, c'est un signe que sa foi est revenue parce que la vitre n'aurait pas dû se briser normalement. Mais elle se brisa.
Il faut aussi dire que le plan là d'utiliser les vampires pour transmettre le sida, c'était pas que pour lui, c'était un plan qu'il voulait faire de manière globale. Hein,
okay.
C'était pas que pour Callahan.
Okay.
Donc c'était vraiment des méchants très très méchants.
Le prêtre se souvient qu'en tombant, il entend le son du carillon qui se rapproche, il voit de la lumière et il s'engouffre dans la lumière. Donc là, on revient dans le souvenir de Callahan.
Il fait ce que tout bon catholique aurait fait. Il a suivi la lumière.
Donc il se réveille intact dans une sorte de grange. Il porte un jean, une chemise et de vieilles bottes. Au milieu de la grange, il y a une porte, comme celle par lesquelles sont arrivés les autres zozos. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Derrière la grange, il y a une machine qui ressemble à une machine à traire avec écrit dessus « Industrie Lamerck ». En fait, c'est un distributeur d'eau. Callahan se sert et, à ce moment-là, un homme en grande robe noire avec des doigts fins et cireux lui dit de le suivre. Il veut lui présenter le pistolero et Jake. Enfin, s'il n'est pas trop tard. On se rend compte que Callahan a atterri dans le relais de diligence abandonné comme Jake dans le tome 1. L'homme en noir porte une mallette à la main. Il se présente, Walter, et au loin, il montre deux petites taches en mouvement. Il s'agit de Roland et de Jake. Ils viennent de quitter ce relais, donc comme je vous disais, on en parlait dans le tome 1, donc dans l'épisode 1 sur la tour sombre. Walter pense qu'ils ne vont pas tarder à mourir, mais si ça n'arrive pas, Callahan les rencontrera dans quelques années, et il leur donnera la mallette noire. Ça les tuera à coup sûr. Callahan refuse. Walter explique que c'est le roi qui décide et que le prêtre n'a pas tellement le choix. Si le pistolero et son cathète meurent avant d'arriver à lui, il vivra vieux et paisible. Puis vivra à son niveau de la tour bien longtemps. Sinon, il fera tout pour aider le cathète, leur remettra la boule et causera leur perte.
Donc on voit que le vieux est en fait un plan de secours de Randall, ou de Walter.
De l'homme en noir.
De l'homme en noir.
Walter commence à ouvrir la mallette qui contient la boule noire et Callahan a la sensation que cette chose est tellement horrible qu'elle ferait même fuir Barlow. Le prêtre dit à Walter qu'il est cruel. Walter dit qu'il est ce que le cas, la tour et le roi ont fait de lui, comme tout le monde.
Très pragmatique. Hein. Ouais.
Moi, je trouve ça un peu facile. C'est pas moi, c'est les forces supérieures. Callahan dit que peut-être que le cathète ne mourra pas. Walter dit que si, c'est le cas. Callahan,
c'est le cas ou c'est le cas?
C'est le cas.
Non, mais j'ai juste qu'il y a un moment, tu te perds un peu.
Bah, non. Non, non, c'était... J'ai comme bien écrit K.A.
C'est le caca.
C'est pas une faute de frappe, c'était...
Alors, je suis pas le résumé, je suis avec mes notes pour savoir où j'en suis quand j'ai des trucs à dire.
Ah ouais, je fais un résumé, tu le suis même pas.
Mais non,
bah,
je t'écoute.
Super.
Je t'écoute. Je vais pas lire en même temps, je t'écoute.
Bon, Callahan dit qu'ils sont peut-être au-dessus du cas. Walter s'énerve face à ce blasphème. Personne n'est au-dessus du cas. Il sait que le dernier étage de la tour est vide. Oui, Émilie ?
Non, je précise K.A. Pour le grand poil qui suit pas.
C'est le cas.
K.A. Mais je suis...
Pendant tout ce temps, Walter force Callahan à reculer vers la porte. Oui, parce que tout cet échange, nous on dit des conneries en même temps, mais il est un peu tendu, quoi. Celle-ci est maintenant ouverte et Callahan comprend que c'est grâce à la boule noire. Walter fait tomber sa capuche. Il a une tête très pâle de fouine humaine et un trou au milieu du front, comme un œil, mais sans œil dedans, comme une blessure qui ne saigne pas et ne cicatrise pas. Walter ouvre complètement la mallette. Callahan est épouvanté par la vue de la treizième noire. Walter lui lance la mallette et il bascule dans la porte. Le voilà maintenant dans la grotte de la porte, pas loin de la Cala. La mallette est toujours ouverte et il a la certitude que le roi cramoisi le regarde depuis le haut de la tour. Il hurle et tombe dans les vapes. Et on ne devrait pas s'appeler le roi cramoisi à partir de maintenant ?
Non.
Non, c'est moins sympa.
Le roi cramoisi, c'est Steven quand il passe un petit peu trop longtemps au soleil.
Oh. pour l'épisode de la rentrée, après 2 mois d'été, ça marchera.
Donc il hurle, il tombe dans les vapes, et puis il se réveillera que 3 jours plus tard dans le camp des Mani. Les femmes de Henchik, le chef des Mani, ont pris soin de lui. Une fois sur pied, il a loué sa force de travail dans les champs.
En fait, c'est marrant parce que on dit qu'il meurt, mais c'est pas clair qu'il meurt, il a juste voyagé à travers la porte. Comme dans l'autre sens, Eddie, Jack et Susanna, quand ils sont retournés dans le New York, ils sont pas morts.
Non, parce qu'il est d'abord arrivé
Le seul qui est vraiment mort une fois, c'est Jake.
Bah ouais.
Ils ont franchi une porte en tombant au-delà de la tour.
Mais non, il est d'abord arrivé...
Justement, en sautant par la fenêtre et en tombant, il est mort.
Oui, et il est arrivé au même endroit que Jake.
Ah oui, c'est ça.
Ok.
Au truc de diligence.
Oui. Ah oui, je me souvenais plus qu'il s'était écrabouillé.
Et c'est vrai, parce que ça me faisait penser à la mort de Dana dans Le Fléau. Parce qu'elle essaye, quand elle rencontre Flag, et qu'elle se rend compte qu'il va réussir à lui extirper les informations sur les autres qui sont aussi à Las Vegas, elle essaye de se jeter par la fenêtre, et en fait, elle prend juste un bout de verre et elle se tue. Mais je crois que dans la série, elle réussit à se jeter par la fenêtre.
Oui, il y a un truc. Ouais.
Et moi, ça m'a fait penser à ça.
C'est Nadine qui se jette.
Dans la série, elle se plante aussi.
Nadine, elle se fait jeter à l'intérieur. Il y a une espèce de grand espace intérieur. Elle se fait jeter.
Oui.
Mais Dana, elle se jette d'elle-même en se rendant compte que. Dans le livre, Dana, elle se jette d'elle-même.
Oui.
Dans le livre, elle essaie de se jeter, mais elle n'y arrive pas.
Oui. Et du coup, elle brise quand même la vitre et elle prend un bout de verre pour se tuer.
Mais dans la série aussi.
Dans la série aussi, en fait, c'est Nadine qui arrive à sauter.
Elle saute d'elle-même dans la série.
Ah, Nadine, elle saute d'elle-même dans la série. Ouais, bah, pas dans le bouquin. Ok. Mais ça m'a fait penser, j'ai revu.
Non, mais
Fléau,
tu débutes
coup,
en King, c'est normal.
Bah, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai pas mis ma partie dans le conducteur, donc vous démerdez. Ouais, je suis fatiguée. Non, mais oui.
Je comprends.
Mais c'est comme le fléau, voilà. J'aurais juste dû dire, c'est comme le fléau.
C'est vrai. Totalement. Donc, voilà. Donc, une fois sur pied, il loue sa force de travail dans les champs. Puis, au bout d'un moment, il se remet à prêcher sans même l'avoir vraiment voulu. Il le fait naturellement. Et il s'est alors rendu compte que l'homme Jésus était connu et faisait partie des différentes croyances de ce coin. Avec la dame Orisa, etc. Les habitants ont fini par lui construire une église. La vie coule doucement. Callahan demande à Jake si, lorsqu'il l'a vu au loin, au relais de diligence, c'était après sa mort. Jake précise que c'était après sa première mort, mais avant sa deuxième mort. Et ça aussi, ça jette un froid. Mais il n'y a pas plus de précision, enfin, ils n'expliquent pas à Callahan de quoi il s'agit. La boule est restée dans la grotte plusieurs années, mais elle a fini par se réveiller et appeler Callahan pour repasser la porte. Il a hésité à suivre cette pulsion en se disant qu'il allait essayer d'empêcher la mort de Kennedy, par exemple. Et finalement, il ne l'a pas fait.
Comme quoi,
parce
ça tracasse King depuis longtemps, ce truc-là.
Et il ne l'a pas fait parce qu'on sait ce qu'on empêche, mais on ne sait pas ce qu'on provoque à la place. D'ailleurs, si l'histoire...
On a vu ce qui se passait dans 22-11-60.
Voilà. Pas besoin d'écrire tout un roman sur ça. Si l'histoire d'un homme qui retourne dans le passé pour empêcher la mort de Kennedy vous intéresse, je vous encourage à aller écouter notre épisode sur 22-11-63. C'est le troisième livre qu'on a traité.
C'est épisode 2.
Et du coup, j'en avais parlé de ça avec Émilie. Je t'avais demandé... t'avais envoyé un message pour savoir s'il y avait des liens plus précis entre 22-11-63 et ça. Et je crois que je t'avais envoyé un article qui disait que c'était un des premiers trucs qui lui était venu en tête, cette histoire d'essayer de sauver Kennedy, non ?
Oui, et que en effet, enfin que c'est une idée qu'il avait en tête depuis longtemps, mais qu'il sentait pas les épaules de le faire parce qu'il y avait des recherches historiques derrière et que c'était trop
c'était
complexe.
C'était trop récent.
Ouais.
Et que c'était trop récent aussi parce que.
Oui, puis ça fait partie de ses gros traumas en plus, donc il a. Oui. Mais oui, il l'avait en tête depuis très très longtemps. Donc comme quoi, ouais, il l'a plus ou moins traité. Et c'est marrant parce qu'il l'évoque exactement de la façon où il l'a écrite plus tard, quoi. À se dire,
exactement.
Bah peut-être qu'il faut pas changer le passé.
Exactement. Histoire de quelqu'un qui passe une porte, qui va... Ouais.
Ouais.
Donc Alan et Rosalita vont se coucher et le cas-tête reste un peu plus pour palabrer entre eux. On a un merveilleux point culotte sur une blague d'Eddie. Donc à ce moment-là, j'étais pas sûre que ce soit une bonne traduction, mais elle est pas si mauvaise que ça. Donc la blague en français, c'est « Toc toc, qui est là ? T'as mis ta ? T'as mis ta qui ? T'as mis ta culotte à l'envers ?» et en anglais, c'est pas mot pour mot la même, mais c'est aussi une blague de culotte en anglais. En VO, quoi. Donc Roland frissonne à l'idée que Callahan fait partie de son histoire depuis longtemps sans le savoir. Eddie se demande qui a sauvé Callahan dans la laverie de New York. Pour Jake, c'est évidemment Calvin Tower et son pote de la librairie d'hypno. D'ailleurs, il a une chevalière ex-libris. Preuve que ça ne peut être qu'un libraire. Grand Poil m'a fait quasiment la même réponse quand je lui ai posé la question sur l'identité de ces deux super-héros sans cape.
J'ai dit, c'était un clin d'œil quand même vachement appuyé.
Et ben, il a une chevalière ex-libris, d'après toi, c'est qui ?
Wink, wink.
Ben, en fait, je trouvais ça trop simple. Du coup, je m'étais dit, non, il doit y avoir un autre truc. Pour Roland, le récit de Callahan pose plus de questions que ne donne de réponses. Il demande à son cas-tête s'ils veulent profiter qu'ils soient réunis en tête, donc on prend un petit carnet en note, en tête, ça veut dire en conseil, pour aborder un sujet particulier. C'est Susanna qui prend la parole. Elle pense être enceinte. Voilà, ils s'y attendaient pas, les autres. Ils étaient là pour lui en parler du fait qu'elle était enceinte. Troisième partie, les loups. Chapitre 1, secret. Au matin, Roland...
Alors, juste, 10, ouais. Avant qu'on passe au loup, tu l'as pas dit, mais il y a quand même Callahan, il a été assisté à l'éloge funèbre de Ben et Marc Petrie.
Ouais, je me suis dit qu'on s'en foutait. Mais peut-être pas.
Petit... Non, mais alors pour le coup, ça n'a peu d'importance.
Si, en fait,
sur la suite,
il a repassé
le petit rappel à Salem et à ceux qui avaient combattu Barlow, qui avaient survécu.
Ouais, il a repassé une fois la porte et c'était pour ça. Au matin, Roland rejoint le père Callahan pour lui parler de l'histoire complète de Susanna et du bébé démon. Susanna sait qu'Eddie n'est pas le père, mais personne n'a évoqué l'origine probable du géniteur. Roland n'a peur que d'une chose, c'est qu'à cause de ça, le tête soit détruit.
T-E-T.
Callahan est... Quoi ?
Non, tête T-E-T.
Oui ?
Et pas... Mais je reprenais les K-A, je reprends les T-E-T.
Mais c'est pas T-E-T que ça s'écrit ?
Tête. Si, je précise pour Grand Poil qui lit sa note.
Ah, je croyais que j'avais encore mal écrit.
Non, c'est bon.
Je suis chevauchée.
La tête, c'est un fleuve côtier à côté de Perpignan, voilà, sachez-le. Et ça s'écrit pareil.
Je connaissais la fête du tête, mais c'est autre chose encore.
Donc Roland, lui, sa peur principale, c'est que le tête, donc le tête du cas-tête, comme dans cas-tête, soit détruit. Et Callahan est choqué que la quête de la tour sombre passe avant tout le reste dans les inquiétudes de Roland. Mais bon, nous, on le connaît, ses copains aussi, on sait que c'est un con, on va pas le changer maintenant. Roland veut savoir si Rosalita pourrait être dispo pour aider Susanna à avorter. Callahan pète un câble. N'oublions pas qu'il est catholique et vieux. Il interdit à Roland de suggérer à Susanna cette idée d'avortement. Démon ou pas démon, pour Callahan, l'avortement est un meurtre. Nous avons donc là deux hommes qui débattent de si Susanna va avorter ou non sans jamais avoir abordé le sujet avec elle. Roland remarque d'ailleurs que Callahan n'emploie plus le prénom de Susanna. Elle est devenue la femme. Et il lui fait remarquer au détour d'une phrase. Roland plaide que le bébé démon risque fort de vouloir tuer sa mère dès sa naissance. Callahan n'en a rien à secouer. Il menace Roland de retourner tous les habitants de la Cala contre eux si Susanna avorte, que ce soit son idée à lui ou son idée à elle. Roland est un poil vénère, moi aussi, mais il prend sur lui. Il dit au père Callahan qu'il accepte à condition que ce dernier surveille Susanna comme du lait sur le feu pour qu'elle ne soit jamais seule quand Mia prend le dessus et que si cette naissance tourne mal pour Susanna, il lui fera payer très cher. Roland veut aussi 6 personnes de confiance, 3 hommes et 3 femmes. Pas tous avec des enfants qui risquent d'être enlevés. Aucune des femmes qui lance le plat. Callahan a quelques noms en tête rapidement. Il y a 2 couples de la Cala, un manie que les enfants suivraient jusqu'au bout du monde. Il propose aussi Jake, mais Roland a besoin de lui. Puis Andy, mais Roland pose un veto qui n'appelle pas au débat. Ils verront pour plus tard pour le 6e. Callahan s'en va avec Rosalita faire le tour de ses ouailles. Eddie, enfin debout, accompagne Roland s'occuper des chevaux pour lui répéter ce qu'a dit le grand-père au sujet des loups. Évidemment, nous, on ne sait toujours pas. Mais pour Roland, tout devient limpide et tout explique pourquoi ils ont tous des chevaux gris. Puisqu'ils avaient déjà relevé le fait que c'était bizarre d'avoir un troupeau de chevaux tous gris. Sans dévoiler le truc, est-ce que vous, à ce moment-là, vous avez une idée de qu'est-ce que c'est ce fameux secret? On ne dit pas ce que c'est.
Moi, le seul truc que je me suis dit, c'est que c'est pas des chevaux, c'est genre des motos ou des conneries comme ça, ou c'est des chevaux mécaniques pour qu'ils soient tout gris. Mais sinon, à part ça, j'avais rien. Même la première fois que j'ai lu, je voyais vraiment pas.
Ouais.
Moi, à ce moment-là, mon hypothèse, c'est que c'était genre des clones. Ou un truc comme ça. Mais ça collait pas parce qu'ils en ont vu qu'un. Donc ils peuvent pas deviner que c'est des clones. Enfin, bon, il y avait un truc qui collait pas dans mon hypothèse. Oui. Mais
ils ont vu Star Wars, ils savaient.
C'est ça. Mon autre hypothèse, c'était que c'était les enfants enlevés qui étaient pas revenus. Je me demandais si c'était pas ça.
Ils reviennent tous, sauf ceux qui meurent en cours de route, je crois.
Non, ils reviennent tous et on suppose que les autres sont morts. Mais on ne sait pas, en fait, ce qu'ils sont devenus, les autres. Et du coup, je m'étais dit, peut-être qu'en fait, le grand-père, quand il a enlevé le masque, il a reconnu un des gamins qui avait été enlevé.
Ok, ouais.
Il aura peut-être eu l'air moins serein que ça au moment où il le disait, du coup.
Peut-être. Mais ça faisait partie de mes hypothèses. Donc, voilà le cathète qui passe 5 jours à faire campagne en ville. Ils vont serrer des mains, rencontrer des gens.
Faire des bisous à des bébés.
Ah oui, je l'ai pas dit, mais Roland, il est super content de la nouvelle qu'il vient d'apprendre par rapport à qui sont les loups. Ils vont serrer des mains, ils vont rencontrer des bébés, tout ça, bon. L'après-midi, Susanna va s'entraîner au lancer d'assiettes et le soir, Jake dort chez son copain Benny. Lors de leur chevauchée, Roland demande à Suzanne si elle a envisagé d'avorter. Elle répond que oui. Roland lui demande de ne pas le faire parce que le cas. Suzanne ne pose pas plus de questions, ça a l'air de lui convenir comme explication.
Elle n'était pas plus décidée que ça non plus.
Mais c'est ça, en fait, on sent que c'est un peu... Ah, c'est le cas, bon bah alors, ok, on n'en parle plus, voilà, comme ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de décision, tout va bien. Au bout d'un moment, Zalia invite le cathète à venir voir les progrès de Susanna. Plusieurs fermiers du coin sont là aussi. Susanna, sans suspense pour nous, ni pour son cathète, fait une démo de ouf. Tout le monde est abasourdi. Susanna aimerait échanger ses pistolets contre des plats. Elle a l'impression d'avoir trouvé son arme. Jake est perdu dans ses pensées. Il repense au père de Benny, qui, après avoir discuté avec Andy au milieu de la nuit, était parti vers Tonnefoudre en remontant la rivière. Il repense surtout à ses lunettes et à comment il les a récupérées. Une histoire toute banale, au fond. Il les avait achetées sur un bateau marché. Mais Jake pense qu'il ment. Il ne sait pas dire pourquoi, c'est une intuition, mais il est certain que c'est un mensonge. Mais il n'ose pas en parler à Roland de peur de faire du tort à son copain Benny. 2 jours plus tard, pendant que les lanceuses de plats s'entraînent, Eisenhardt vient prévenir Roland que Took, le gars de l'épicerie, et Overholzer, le gros fermier, sont contre leur intervention et que si lui les soutient, c'est uniquement parce que sa femme les soutient. Et que si jamais il arrive quelque chose à sa femme, ça va chier des bulles. Les lanceuses s'entraînent, Rosalita est la meilleure. À défaut de pouvoir lui offrir une noix pour la récompenser, Roland lui promet de lui montrer un coup de jarre plus tard dans la soirée. Donc une fois tout le monde parti, notre cathète préféré après le nôtre glande un peu en papotant. Jake voudrait emporter l'arme qu'il a piquée à son père ce soir, quand il ira dormir chez Benny. Il promet que ce n'est pas pour fanfaronner avec, mais il ne donne pas d'autres explications. Roland comprend que Jake essaie de prendre aussi un peu ses responsabilités. Ouais, c'est pas le mot que je cherche. On s'en fout.
Qui veut prendre sa place au sein du cathet, qui veut montrer qu'il est, qu'il mérite ses armes.
Ouais, quelque chose comme ça.
Oui, il a les testicules qui sont descendus.
Son indépendance. Ouais, voilà, c'est ça. Il va devenir un homme dans pas longtemps. Donc, il est ensuite décidé par le groupe que les loups devant arriver dans 10 jours, le conseil du village devait se tenir dans 6 jours. Avant de se séparer pour la soirée, donc c'est à ce conseil qu'ils devront poser la question est-ce que vous demandez assistance et c'est là que sera réellement décidé si le cathet intervient ou pas. Avant de se séparer pour la soirée, Eddie dit qu'il doit aller à New York, mais pas Vahadash. Il doit utiliser la porte et la 13e noire. Le temps manque et les loups de la Cala ne sont pas le problème principal. Roland n'est pas chaud, mais pour Eddie, il ne faut plus attendre. En plus, ils ont été idiots de croire que Calvin Tower voudrait des millions pour le terrain de la Rose. C'est comme Callahan et sa boule noire, dont il veut absolument se débarrasser. Enfin, il pense que Calvin Tower voudra se débarrasser du terrain. Mm. Jake propose de lui filer quelques sous quand même, genre il a 6 dollars sur lui. Demain, le cathet se rendra à la porte et Eddie... Alors, je pensais que c'était le cathet, mais en fait, c'est juste Eddie et Roland. Et Eddie retournera en 1987, enfin... Peut-être, parce qu'en vrai, on ne sait pas. Et ça, ça lui fout un peu les boules. Chapitre 2. Le Dogan, première partie. Ou le Dogan, je sais pas.
Ouais.
C'est pas très grave.
Le lendemain, Roland et Eddie récupèrent la boule, la mettent dans le sac de bowling de Jake et en avant vers la grotte. Eddie est terrorisé. En cours de chemin, Roland montre à Eddie l'endroit où il compte emmener les enfants. Enfin, officiellement. Il pense qu'il y a un mouchard à la Cala et il a même sa petite idée de qui il s'agit. Mais il n'en dit pas plus et continue son ascension vers la porte. Bon, alors je ne suis pas sûre que ce soit utile de s'étendre longtemps. Le stress monte, Roland donne à Eddie son pistolet de pistolero, Eddie se concentre sur le quand et le où et fait signe à Roland d'ouvrir la boîte qui contient la 13e noire, la porte s'ouvre, le camion est assourdissant, Eddie passe la porte. Il est arrivé au bon endroit et se met en route pour la librairie. En chemin, il apprend que la date est le 23 juin 1977. Et moi, j'ai écrit ça, on était le 23 juin 2021. C'est pas un peu foufou ?
C'est amazing.
C'est magique, c'est le cas.
C'est le cas.
C'est le cas. Donc, hier, j'étais au chapitre 2. Donc, il devait impérativement arriver avant le 15 juillet. Jusqu'ici, tout va bien. En arrivant à la librairie, il se rend compte que Balazar et où ses hommes sont là. En tout cas, il y a une des berlines de Balazar devant la librairie. En regardant par la porte vitrée fermée de la boutique, Eddie voit qu'il y a eu du grabuge. Il ouvre la porte de force, sort le pistolet de Roland, et là, c'est plus Eddie, c'est Bruce Willis. Il se faufile dans l'arrière-boutique. Il voit Calvin Tower sur une chaise, pas bien frais. Il est attaché, je crois. Ou pas, mais oui. Enfin, en tout cas, psychologiquement, il est attaché. Et les gros bras de Balazar le menacent de brûler ses livres qui valent plusieurs milliers de dollars s'il ne promet pas de vendre son terrain à Balazar. Eddie dégomme tout le petit monde. Alors en fait, il en tue un, il en assomme un deuxième, et il chope Andolini. C'est Andolini, en fait, dans le tome 2, c'est celui qui meurt sur la plage bouffé par les
omarstruosités.
Exactement. Donc il le maintient au sol, il joue un peu avec ses nerfs, il lui colle son arme sous le menton, tout ça. Il a envie de lui dire ce qui va se passer dans 10 ans pour les omarstruosités, mais bon, finalement, il le fait pas. Et puis en plus, Eddie sait que ça arrivera peut-être pas, finalement. Enfin, les mondes sont un peu différents.
Il commence à y avoir des doutes sur les univers parallèles. Ils savent pas trop si c'est vraiment dans leur New York qu'ils sont revenus ou pas.
Est-ce qu'ils interviennent pas et donc ça change pas des trucs? Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, Eddie, pour lui, il est au niveau 19 de la Tour Sombre. Mais là, il n'a pas le temps de développer son hypothèse. Moi, ça m'arrange parce que j'avais envie d'avancer et je n'ai pas de prendre des notes. Il dit à Jack Andolini de prévenir Balazar que la marque de Gilead est sur le libraire et que quiconque touchera un seul de ses cheveux ou d'un de ses proches déclenchera un bain de sang. Les femmes, les enfants, tout le monde y passeront. Quand le terrain n'est plus à vendre, que la Sombra Corporation a trouvé plus fort qu'elle, la Tête Corporation, et puis blablabla. Il laisse repartir un Andolini terrorisé pour aller transmettre le message. Donc il part avec celui qui était assommé, qui a fini par se réveiller. Une fois seul, et tout, pendant tout ce temps-là, le libraire, il se dit que Andolini, il fait peur, mais que celui qui vient de débarquer, là, il a l'air pire.
Il fait encore plus peur. Hein.
Ouais. Mm. Une fois seul, c'est le moment où Emily va se faire un petit thé après être allée aux toilettes.
Et je t'entends.
On vient de l'avoir quitté sa caméra. Donc une fois seul, le libraire essaie de se remettre. Lui et Eddie échangent des banalités, puis Eddie lui parle du terrain. Calvin dit qu'il a du mal à se séparer des choses. Eddie pense qu'en fait, il a surtout protégé le terrain, même s'il s'en rend pas compte.
C'est, Calvin, limite, c'est une mission familiale, oui, rien qu'avec son nom, il sent que c'est un but qui lui a été assigné depuis très très longtemps.
Calvin, il comprend pas bien de quoi lui parle Eddie. Puis, il dit que parfois, il rêve que de l'autre côté de la palissade, il y a un champ de roses qui s'éloigne à perte de vue. Mais bon, c'est un rêve, quoi.
Quelle surprise.
Eddie dit qu'il est temps de tenir une palabre. Et ça fait sourire Calvin Tower. Alors Eddie, il est un peu étonné. Et oui, parce qu'en fait, il a avec lui un des livres qu'Andolini a voulu brûler. Donc en fait, ils sont sortis de l'arrière-boutique, ils se sont pris un café au bar de la librairie. Et donc, il avait avec lui un bouquin qu'il a posé à côté de lui. Et en fait, dans ce bouquin, le terme palabré, cette expression de tenir palabre, est souvent utilisé. Alors Eddie jette un œil au livre et manque de s'étouffer. Le titre est Le Dogan. Et surtout, il a été écrit par un certain Benjamin Slightman le Jeune. En d'autres termes, il a écrit Junior. C'est lui après qui dit le Jeune. Oui, t'as raison. Benjamin Slightman Junior. Et donc, a priori, c'est le même nom que le copain Benny de Jake. Et c'est moi à ce moment-là, tu vois, j'aimerais bien avoir un petit truc sur lequel j'appuie et ça fait ta 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 ta.
Ta ta ta.
Donc là, maintenant, je vous préviens tous, je vais donner des détails qu'au moment où je les écris, j'étais incapable de dire s'ils étaient importants ou pas. À ce moment-là, j'ai envoyé un message à Grand Poil pour savoir si c'était important ou pas. Mais vu qu'il dormait déjà, il a jamais répondu. Et au moment où il a répondu, j'avais déjà fait le résumé, donc tant pis.
Oui, bah écoute, à minuit, moi, je dors.
C'était pas encore minuit.
Des fois.
Donc, Tower, et j'ai pas voulu insister parce que je me suis dit, s'il allait se coucher et qu'il a oublié de couper ses notifs, ça sert à rien d'envoyer 25 messages.
Non, ça c'est bon.
Donc bref, Tower explique que si ce livre vaut si cher, c'est parce qu'il y a une coquille sur la couverture. Comme titre, il y a écrit Le Dogan, ce qui ne veut rien dire. Mais le vrai titre, qui est écrit à l'intérieur du livre, c'est le Hogan. Et ça, c'est le nom des habitations traditionnelles des Indiens Navarro. D'ailleurs, les bouquins de cet auteur parlent exactement, ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave, je l'écris, du coup, je vous le lis.
Tu vas le dire, bien sûr.
J'ai pas bossé pour rien. Donc d'ailleurs, les bouquins de cet auteur parlent de la... Ah, ça sert à rien là, ça se trouve c'est une info pour plus tard, on sait pas.
Peut-être.
Donc ça parle de la conquête de l'Ouest, des Indiens et tout ça. Il en a écrit 3. Ailleurs, dans le livre, il est écrit Benjamin Slightman. Le junior a disparu. Et c'était le nom de son père, à Benjamin Slightman Junior. Et d'ailleurs, s'il veut, il peut réclamer les droits d'auteur juste pour cette faute de frappe. Notez-le quelque part, je ne sais pas en droit français, mais en tout cas aux États-Unis, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi ce livre coûte cher. Et c'est pour ça que Calvin y tient beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit. Alors, là j'ai marqué, nous on sait que c'est pas totalement un hasard. D'ici la fin du tome 5, on sait pas. Enfin, ça, on revient pas dessus. Peut-être tome 6, je sais pas. On verra. Eddie sue de l'arrêt en entendant tout ça. Je crois que c'est clair. Il se rappelle que Jake est devenu très vite très copain avec Benny et ça le met tout d'un coup très mal à l'aise. Et en écrivant ça, j'ai eu une illumination en mode « Oh putain, mais j'ai compris ce qui va se passer !» Mais avançons, si ça se trouve, je me trompe. Et puis surtout, j'ai oublié. Non mais genre, j'ai vraiment oublié ce que l'illumination que j'ai eu à ce moment-là. Ah si, je me souviens. Non, bah en fait, il se passe pas du tout ce que je pensais, donc voilà. Donc à la base, Eddie n'était pas là pour parler de ça. Et puis, il est un peu décontenancé par ce qu'il vient d'apprendre. À partir de maintenant, donc il essaie de revenir dans ce pourquoi il est là, et il est clair avec Calvin. À partir de maintenant, il faut que Calvin se planque dans le Maine, par exemple. Il embarque son pote d'hypno, qui a de la thune, et qui était avocat, ça tombe bien, parce qu'il va falloir rédiger un contrat qui dit que Calvin file le terrain à la Tête Corporation. Évidemment, Tower refuse. Eddie pense que c'est parce qu'il est pingre et lui dit qu'il est marié à l'héritière, alors que lui, Eddie, est marié à l'héritière de l'empire des dentifrices Holmes. Calvin, tout le monde connaît apparemment, donc Calvin explique que ça n'a rien à voir avec l'argent. Il a dans son coffre de l'arrière-boutique quelque chose d'une valeur immense qui est dans sa famille depuis toujours et qui a sa place dans cette boutique. Pendant que Tower va chercher le truc, Eddie se rapproche de la porte qui le suit partout et demande à Roland de le rejoindre. Parce qu'en fait, la porte par laquelle il est passé pour venir le suit partout où il va. Donc en se retournant, il voit de l'autre côté Roland assis dans la grotte.
Qui est en train de d'ailleurs
souffrir parce ouais. que la quand ils ouvrent ça, le bruit produit par la, je sais plus si c'est le par la,
c'est le camen,
par la boule ou par le carillon justement, et ouais. est insupportable pour ceux qui restent, même si c'est collé des balles dans les oreilles, ça suffit.
Ouais. Mm. Et mais il y a pas que ça, il dit que ça rentre, enfin après plus tard il dit que ça rentre dans son arthrite, dans ses os, et
ça l'aggrave.
Eddie dit à Roland de le rejoindre, mais il peut pas parce que la boîte de la boule se refermerait et à ce moment-là, ils seraient tous les deux coincés en 77. Roland a l'air de prendre cher à regarder cette boîte ouverte à côté de lui. Quand Tower revient et questionne Eddie sur le fait qu'il parle seul, Eddie lui demande de bien regarder. Tower voit qu'il y a comme un miroitement, mais Eddie lui expliquera plus tard de quoi il s'agit. En fait, c'est la porte.
Et il le fera pas, je crois.
Pas dans ce tome,
je me souviens pas.
Non, pas dans ce tome-là. Tower est là avec une enveloppe. Dessus sont dessinés les mêmes symboles que sur la porte et la boîte. Tower explique que dans cette enveloppe, il y avait le testament de son aïeul il y a 130 ans. Maintenant, il n'y a plus qu'un bout de papier avec un nom. Si Eddie arrive à dire quel est ce nom, Tower fera tout ce qu'il veut. Eddie n'hésite pas une seule seconde. Il dit qu'il s'agit soit de Roland Deschamps, soit de son père Stephen Deschamps. Et effectivement, sur le papier, il est écrit « Roland Deschamps de Gilead, la lignée d'Elde, pistolero ». Et maintenant, c'est... Ouais, exactement. Et maintenant, c'est Tower qui suit de l'arrêt. Il papote un moment, Eddie trouve que Tower est un salopard égoïste et il n'est pas étonné qu'il n'ait qu'un seul ami. Le plan maintenant, c'est que Calvin parte tout de suite pour la Nouvelle-Angleterre. Une fois qu'il sait où il se pose, il envoie le code postal à son pote Dipno qui devra l'écrire sur la palissade du terrain vague. Ensuite, il va se balader. Donc, une fois qu'il a envoyé le code postal à Dipno, il va se balader à l'épicerie du village pour dire qu'il est là pour écrire un livre, etc. Ça permettra à Eddie de le retrouver facilement. Calvin trouve que l'idée est excellente, mais avant il veut quelque chose. Il explique à Eddie sa requête, Eddie refuse, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, même si on devine. Alors pareil, même si on devine, en fait j'avais pas du tout deviné. Calvin boude, Eddie râle, puis accepte. Et je sais plus ce que j'avais deviné. Hein. De l'autre côté de la porte...
J'avais pensé qu'il voulait passer la porte avec Eddie, mais c'était pas ça.
Ah oui, voilà, c'est ça, je pensais que c'était ça. De venir au moins une fois voir de l'autre côté. T'as raison, mais en fait non. De l'autre côté de la porte, Roland en chie des caisses. La boule noire lui provoque des douleurs dans tout le corps et il sait que tout ne partira pas une fois la boîte refermée. Il voit alors Eddie revenir avec une caisse remplie de livres et en voulant l'aider à la faire passer, la porte, quoi, la boîte dans laquelle est la 13e noire commence à se refermer et la porte aussi. Roland arrive à empêcher ça, mais la douleur est extrêmement forte parce que là, du coup, il met la main dans la boîte carrément, je pense qu'il doit toucher la... La boule ou être tellement proche que c'est horrible. Eddie finit par revenir. Tout se ferme, ils peuvent repartir. Donc il laisse à la grotte, il laisse la boule, je crois, et les livres. Enfin, la caisse avec les livres dedans. Oui, parce qu'en fait, je crois que je l'ai pas écrit, mais c'est une caisse avec des bouquins. C'est les bouquins, justement, très chers qui étaient à l'arrière boutique. Ouais.
Et c'est pas là où on nous dit que s'ils avaient regardé tout de suite les livres, le deuxième qui était retourné, ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire.
Je crois que c'est un peu plus loin. C'est un petit peu plus loin. Où on a ce petit kingisme qui dit « Oh là là, si on avait su, on n'aurait pas venu.
» Ah, je m'en souviens pas.
Je crois que je l'ai dans mes notes, mais c'est pas maintenant.
Ah, c'est plus loin, ok.
C'est plus loin.
Sur le retour, Eddie et Roland discutent du fait que Calvin Tower est un nul, que Roland semble plus vieux et fatigué que ce qu'il veut bien le dire, et surtout que c'est sûrement Ben Slightman, l'aîné, donc le père, qui moucharde au loup. Ils le savent tous les deux. Eddie propose de le confronter, surtout que si son fils Benny est aussi dans le coup, Jake est en danger. Roland sait que Jake est déjà au courant, même s'il ne lui en a pas parlé. Eddie voudrait protéger Jake d'avoir à trahir son copain Benny en balançant son père en public, mais pour Roland, ça doit être fait par lui. Bientôt, il ne sera plus un enfant.
C'est trop horrible.
Alors, Je me dis, est-ce que c'est par la découverte de la trahison qu'on devient un homme ou en allant au pute? Bah, comme Roland, finalement. On sait pas ce que Roland a voulu pour ce petit bonhomme.
Roland, il a eu un peu tout en même temps, hein, donc c'est difficile de choisir
oui,
la bonne solution.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'inquiète pour Jake, tu vois. J'ai envie d'appeler les services sociaux au bout d'un moment. Mm-hmm. Chapitre 3, le Dogan, première partie. Donc, chez les Slightman, Jake demande à Hoth de le réveiller discrètement quand la lune sera dans le ciel. Il se couche, papote avec Benny de trucs de garçon de la rage, ta chambre est comment, machin, blabla, mais aussi du fait que Roland fait peur au père de Benny. Ils s'endorment. Une fois la lune montée, Hoth réveille Jake comme prévu et il part à cheval vers l'endroit où il a vu le père de Benny et Andy discuter au bord de la rivière. Il est quasi sûr qu'il n'y a rien à découvrir, mais il faut qu'il vérifie, on sait jamais. Une fois de l'autre côté de la rivière, l'ambiance est hostile, mais il ne sait pas trop dire pourquoi. Il met son arme à son flanc et fait renifler à Hoth un foulard de Ben l'aîné. Après une hésitation, Hoth s'élance vers l'est, Jake le suit.
Il a quand même une hésitation, ouais, il galère quand même un peu à lui faire comprendre ce qu'il veut.
Ouais. Ouais, il est intelligent, mais bon, c'est pas non plus une flèche, quoi.
C'est pas le crayon le mieux taillé de la boîte.
Ça, pour un bafouilleux, c'est pas mal.
C'est pas un chien non plus. Hein. Alors très vite, il se retrouve sur un sentier sur lequel il repère les traces de pas de Monsieur Lightman, non Slightman, de Monsieur Slightman, et des traces plus enfoncées qui appartiennent à Andy. Jake se dit que bientôt, il y aura beaucoup de traces plus enfoncées quand les loups viendront sur leurs chevaux. Au bout d'un moment, il voit au loin une sorte d'entrepôt duquel une lueur de néon s'échappe. Il continue son chemin vers cet endroit, mais cette fois, il n'est plus sur le sentier, mais sur une sorte de vieille route bétonnée défoncée, assez défoncée d'ailleurs pour qu'il laisse son cheval, enfin son poney, pour ne pas qu'il se blesse. Jake continue d'avancer vers l'entrepôt, mais est arrêté par deux puissants spots lumineux qui s'allument d'un coup. Il se dit qu'il doit y avoir des capteurs de mouvement pour la lumière. Il y en a peut-être aussi pour des mitraillettes, des drones ou des robots, mais Osef, il avance. La limite est très mince entre le courage et la connerie, quand même, à un moment donné, bon.
Ouais. Je vous ai déjà raconté la fois où il y a eu un...
T'as une anecdote perso ?
J'ai une anecdote personnelle. La fois où il y a un cambriolage à deux étages en dessous de chez moi, et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de rentrer dans l'appartement pour voir s'il y avait quelqu'un.
Oh là, oui.
T'es ouf ?
Ne faites pas ça chez vous.
Mais ça s'est bien fini.
Je me souviens que tu l'as raconté.
Ouais, bon, c'est bien fini. En fait, j'ai sauté chez mon voisin. En fait, la porte, il y a une porte qui s'est refermée. Du coup, je suis sorti en mode normal. J'ai tapé à toutes les portes pour faire sortir les gens. Et quand le voleur a entendu qu'il y avait des gens qui commençaient à sortir, il est sorti en courant de l'appart pour se barrer parce que c'était un. Enfin, bref, et il avait une lampe à la main et il me l'a jetée. Et du coup, j'ai sauté chez le voisin. Que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Très, très bonne entrée en matière. Voilà.
Bonjour. Bonjour.
Et je voulais aussi dire que ça, c'est le meilleur passage du livre.
Ouais, toute la partie où il est dedans. Ouais.
Il est très, très bien, je suis d'accord.
Ouais, je surtout suis d'accord. On a un peu ce qu'on a déjà depuis un moment, le côté où Roland en parle plusieurs fois, où Jake c'est un enfant, mais c'est aussi un pistolero, et où il est partagé entre bah, Benny c'est mon copain, mais j'ai aussi une mission, et toute cette deuxième partie du bouquin, elle est hyper forte là-dessus, et Jake il est très très bien écrit.
Oui, et avec peut-être tout ce passage de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, enfin, passage à l'adolescence.
Ouais, un enfant qui est plus un enfant trop tôt, mais qui reste, qui a toujours des réflexes d'enfant, quoi. Ouais.
Jack, c'est un peu un Danny 2.0, quoi.
Bof.
C'est où?
Bah, si on les mettait dans une arène, les deux, il n'y a pas photo.
Si Danny n'avait pas été maltraité, il aurait peut-être fini comme Jack.
Ouais.
Organisons des combats d'enfants. Voilà, clandestin.
Non, par contre, la différence est encore plus flagrante parce que Benny a à peu près le même âge et il se rend compte qu'il n'est pas du tout comme ça. Donc c'est aussi...
Benny est plus âgé. Benny est plus âgé.
Ah bah voilà. Et il voit
qu'il est plus âgé, mais il a l'impression que c'est un copain plus jeune.
C'est ça. Donc il voit que pour son âge, il est quand même...
Jack est plus mature par la force des choses, quoi.
Et puis même quand ils discutent, tout à l'heure, quand je dis papote de trucs de garçon de leur âge, justement, il repense à sa chambre, comment elle était, ce qu'il faisait avec ses copains, etc. Et il se dit, à un moment donné, il le dit que quand même, la vie d'avant, elle était plus simple, mais que la vie de maintenant, elle est plus vraie.
Et que son père, c'était un sac à merde.
Comme ça, il le dit depuis le début.
Ah, mais là, du coup, il s'en rappelle.
Depuis le début. Oui, oui, il a aucun, ça, pour le coup, par rapport à ses parents, il a aucun. Il a plus de scrupules d'avoir quitté sa nounou que d'avoir quitté ses parents. Une fois devant la porte d'entrée, il peut lire que ce lieu appartient à la North Central Positronics, qu'il s'agit de l'avant-poste 16 et qu'il faut un code verbal pour rentrer. Il y a aussi un autre panneau qui dit « Bienvenue au Dogan ». C'était le nom du livre, rappelez-vous. Les projecteurs finissent par...
C'est le titre du chapitre aussi.
Oui, mais bon, ça... Peut-être que le chapitre aurait pu parler du bouquin, du coup, tu vois, donc...
C'est vrai.
Les projecteurs finissent par s'éteindre sûrement sur minuteur, et une voix demande le code verbal. Jake essaye 19, mais c'est pas ça. Il a droit à un deuxième essai, alors il essaye 99. Alors, quand je dis c'est une voix robotique, hein, c'est pas quelqu'un derrière son PC de contrôle. Donc il essaye 99, et là c'est bon, la porte s'ouvre. Et là, il y a tout un truc sur le fait que quand il s'est présenté, il a dit qu'il était du cathète de 99, qu'il sait pas pourquoi il a dit ça, que blabla, mais bon, ben voilà, tout se recoupe. Il arrive dans une grande salle de contrôle avec des écrans et un squelette dans un uniforme dans un coin. Sur les écrans, il y a des images de l'intérieur du bâtiment, des alentours, mais surtout, il y a 8 caméras dans la cala, dont une dans le presbytère. Et ce presbytère, il a été construit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on peut pas dire que c'est des restes d'il y a plus de 2000 ans, des anciens je sais pas quoi... C'est très récent.
Et... Ils sont un peu secs quand même. Hein. C'est... Oui, ça n'a pas 2000 ans, mais ils sont quand même bien secs, les cadavres qui restent.
Ah non, je parle des caméras.
De ah, des caméras.
Les caméras, il y a des trucs qui sont là depuis tellement longtemps, on aurait pu dire les caméras qui surveillent la cantine, elles ont été installées là en même temps que tout le reste, et bon, il se trouve qu'elles marchent encore. Qu'il y en ait une dans le presbytère, c'est que ça a été installé il n'y a pas longtemps.
Oui.
C'est ça. Oui. Moins longtemps que les cadavres, a priori.
Oui, exactement. Heureusement, notre petit groupe a tenu ses palabres dehors à chaque fois. Ça tombait bien qu'il faisait chaud. Pour Jake, il n'y a aucun doute sur l'identité de la personne qui a placé ses caméras dans la cala. Tout à coup, Jake voit Ben, l'aîné et Andy sur le chemin. Ils arrivent, que faire ? Sur une des caméras, on voit un dortoir. Jake décide d'y aller pour se planquer. Il trouve un placard juste à temps. Les deux traîtres sont dans la place. Il les entend un peu trop bien, ça veut dire que le bâtiment est truffé de micros et de haut-parleurs, et que s'il peut les entendre, alors ils peuvent l'entendre aussi.
Mais pas péter, pas péter.
Tout d'un coup, il est pris d'une bouffée d'angoisse. Il a peut-être laissé des traces. Il prend son arme en main.
Ne pas péter, ne pas péter.
Il entend Andy oui-winer sur la manière dont il est traité par les humains, et qu'il adore chaque larme qu'il voit couler.
C'est
fils de pute, hein, ils se moquent d'eux. Hein. Oui. Donc Eddie et compagnie avaient bien raison sur le fait que Andy, depuis le départ, c'était un petit enfoiré qui prenait plaisir à les avertir pour les torturer encore plus.
Ouais, c'est la vraie personnalité d'Andy en fait.
Andy ne peut rien dire face aux humains, il doit continuer à faire semblant d'être un peu con-con, mais il ne supporte pas cette attitude venant de Ben. Et il a de toute façon un moyen pour faire pression sur lui, c'est son silence contre un minimum de respect. On comprend que Ben a eu quelques avantages en nature pour trahir les siens, comme les lunettes par exemple, mais surtout il veut protéger son fils. Andy, puisque son fils donc a une sœur qui est morte, donc c'est un jumeau, donc a priori il pourrait être pris par les loups, mais on sait pas, est-ce qu'il est devenu un singleton ?
Et puis,
oui, Julien.
Il est un peu sous-entendu que la sœur, on sait pas trop comment elle est morte.
À ce moment-là ? C'est beaucoup plus tard qu'on le dit, non ? Pour moi, à ce moment-là, elle est morte d'une maladie ou, je sais pas, il y a eu un truc fulgurant, mais... Enfin, pas à ce moment-là. Plus tôt dans le bouquin, on dit qu'elle est morte assez rapidement d'une maladie. Et après, c'est plus tard qu'on dit « est-ce que c'était vraiment un hasard ?»
Ok, je croyais que c'était là.
Bon. Andy fait beaucoup penser à Blaine. Et ce qui n'est pas pour rassurer Jake.
D'ailleurs, à ce propos, dans le livre audio en VO, la voix d'Andy, il parle d'une façon robotique, mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a un petit traitement et Et ouais, effectivement, ça rajoute à l'effet qui fait penser à Blaine. Qui fait qu'il est tout de suite pas du tout sympathique. Enfin, même si.
À l'audio, dès le départ, tu sens que
c'est. Dès le départ, on l'aime pas.
Ah oui.
Ok.
Avant même que le cathète commence à s'en méfier.
Ouais, non, en français, il n'y a pas de traitement particulier sur les voix, c'est le même qui fait tout.
Ouais, il fait tout, mais il adopte un rythme très haché quand il parle avec la voix d'Andy.
Alors, tout d'un coup, on entend un bruit de modem. Alors, évidemment, Jake, qui a quitté le monde qu'on connaît en 1977, ne sait pas ce que c'est. Puis, donc, du coup, lui, ça l'inquiète, ce bruit. Puis, une voix demande un mot de passe. « Samedi », répond Ben. Et Jake se rend compte que c'est la première fois qu'il entend ce mot dans ce monde.
Quel est le mot de passe ?
Ben est en ligne avec un certain Finley Otego, qui se situe actuellement à Agulciento. Ben fait son rapport de la situation. En résumé, il a vu Roland et Eddie aller à la grotte de la porte. Ils portaient quelque chose de lourd et de carré, sûrement des livres ou des cartes appartenant au père Callahan. Ben suggère qu'un loup aille tout détruire, mais il se fait envoyer bouler. De toute façon, Callahan ne sera bientôt plus en mesure de faire quoi que ce soit. Ça, c'est ce que dit l'autre. Ben dit que Roland a parlé d'une grotte pour cacher les gamins, la Gloria, mais il pense qu'en réalité, il va les amener dans une autre qui est juste un peu avant, un peu dans le même coin, qui s'appelle c'est la grotte de la Plume Rouge. Jake a une illumination tout d'un coup. Andy est un robot messager. Il transmet des messages aux habitants de la Cala, mais pas que. C'était évident depuis le début, mais personne n'y a songé. Ben parle aussi des sœurs d'Orisa. Sa mission maintenant va être de savoir où vont se poser Eddie, Roland et Jake pour attendre l'arrivée des loups. Une fois que chacun a fait son rapport, ils repartent. Jake attend un peu que les deux Gus s'éloignent en rôdant dans la salle de contrôle. Il y a des produits qui viennent de l'entreprise, alors des produits, des écrans, des trucs comme ça, qui viennent de l'entreprise Lamerck, et d'autres comme IBM ou Microsoft qui viennent des États-Unis. Il finit par rentrer se coucher dans la chambre de Benny. Il fait maintenant face à un gros dilemme, parce que dénoncer le père de Benny, qui n'est pas un sale type dans le fond, juste quelqu'un qui souffre et qui a pris de mauvaises décisions, c'est détruire Benny, mais ne rien dire, c'est pas possible. Chapitre 4, le joueur de flûte. Le cathète est réuni pour faire le point et à intégrer le père Callahan à ses rangs, du moins pour l'instant. Tout le monde a été briefé des dernières découvertes des uns et des autres, donc c'est pratique, là maintenant tout le monde est à niveau, tout le monde sait tout. Susanna va bien, Mia se fait discrète en ce moment. Callahan va passer la porte pour aller à New York récupérer le code postal sur la palissade et la date à laquelle il le récupère. Puis ils retourneront là-bas plus tard pour convaincre Deepno, le pote de Calvin Tower, de les aider et d'embarquer Tower avec lui. Ils se rendent compte que ça sert à rien d'essayer de convaincre Calvin Tower directement. Eddie décide de mettre les pieds dans le plat sans attendre. Il faut se débarrasser d'Andy et de Ben. Jake supplie pour qu'on ne tue pas le père de son copain, mais Roland ne peut que promettre d'essayer de ne pas le faire. L'idée sera alors que personne ne sache que c'est Jake qui a découvert que Ben est un traître. C'est alors que Andy arrive en jouant de la musique, suivi d'une ribambelle de gamins. Eddie a l'impression de voir le joueur de flûte de Hamelin, et une chose est évidente quand on voit le manège, c'est que les gamins adorent Andy. Mais en fait, on s'en fout. Susanna ressent une douleur dans la tempe, mais décide de ne rien montrer. Ah bah bravo, il y a 10 minutes, on a dit plus de secrets. Avant de finir cette palabre, Roland demande s'il est possible de rajouter un verrou au cas où au cabanon derrière la maison. Il va avoir une mission pour Tianja Ford et Eddie. Il prévient aussi tout le monde qu'à partir du moment où ils se seront... Alors le cabanon, c'est les chiottes. Hein. À partir du moment où ils se seront relevés, il ne faudra plus croire un mot de ce qu'il dira aux habitants de la Cala. Roland est confiant sur l'issue du combat. Il reste 4 jours avant l'assemblée et 9 avant l'attaque des loups. Comme prévu, Callahan passe la porte et atterrit à New York le 24 juin 1977. Et on enregistre un 24 juin, c'est fabuleux.
On est encore une heure. Pendant encore une heure, on est bien.
Au moins.
Donc le 24 juin 77, soit le lendemain du jour où Eddie est venu. Il passe devant la librairie, mais elle a brûlé, ça sent l'essence, donc elle a brûlé dans la nuit. Il continue vers la palissade, et tout à coup il entend et ressent la présence de la rose. Il a envie de la rejoindre, de tomber en adoration, tout ça, mais il doit se grouiller. Il hésite quand même. Il trouve le code postal sur une affiche, le note, et fait signe à Roland qu'il va rester là 30 minutes de plus. Roland pense deviner qu'il va essayer de trouver des informations autour de ce code postal. Pour passer le temps, Roland feuillette les précieux bouquins de Calvin Tower. Il tombe sur un avec une église sur la couverture qui lui donne l'impression de vibrer. Il ne sait pas déchiffrer ce qu'il y a écrit, mais il est certain qu'il s'agit de la clé d'une porte. Mais de quelle porte ? Roland pense que ce livre est comme la rose, mais il se souvient qu'il y a aussi des roses noires. Quand Callahan retrouve Roland, il voit bien que quelque chose ne va pas, mais Roland décide de ne pas lui parler du livre. Deuxième mensonge, alors qu'on vient de dire qu'on arrêtait de se mentir. Il a reconnu des noms dedans.
Non, il ne veut pas le faire. C'est pas un mensonge, c'est juste qu'il ne peut pas le faire.
Ben,
plus Callahan de secret.
Dit, il y a un truc qui va pas, et Roland dit, si, t'inquiète, tout va bien. C'est pas vrai.
Ouais, c'est pas le moment, quoi.
De toute façon, il le dit, à ce moment-là, Roland, il le dit qu'il vient de promettre de plus mentir, mais que, mais qu'il a ses raisons pour ne pas... Enfin, c'est écrit dans le bouquin. C'est Stivou qui l'a dit. Bref, Callahan a trouvé le nom de la ville dans laquelle se planque Tower. Oui, et donc dans le bouquin, il a reconnu des noms. Alors, il sait pas lire vraiment Roland, mais il a quand même reconnu quelques noms, et donc il va en parler avec les autres, mais pas maintenant. Chapitre 5, le conseil des Falken. Donc, les Falken, je sais pas si on l'avait dit, c'est les habitants de la Cala. C'est les paysans, ou enfin, c'est les habitants, quoi. Les villageois, voilà.
Le peuple.
Le peuple.
Oui, la plèbe.
Voilà tous les habitants de la Cala réunis, environ 600 personnes. Tian commence son discours pour faire un petit récap, et Roland prend la suite sous les applaudissements des Falken. Avant de commencer, il faut régler une question. Est-ce que les gens de la Cala demandent assistance aux pistoleros ? Quelques-uns disent non, mais l'immense majorité crie que oui. Donc ça y est, c'est enclenché.
C'est pas avant ça que Roland dit qu'il va dire plein de mensonges et qu'il ne faudra pas réagir ?
Si, je l'ai dit. C'est quand ils sont, mais quand ils sont que entre eux.
Oui, c'est ça.
Oui, bien sûr. C'est la première fois que Callahan est là et que Roland dit qu'ils sont en quatette. Donc Callahan fait partie du quatette au moins pendant à ce moment-là, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent que qu'il prévient qu'une fois qu'il se sera levé, il faudra plus croire ce qu'il dit.
Voilà.
Et qu'ils espèrent que ils espèrent que le vieux réagira pas, surtout.
Ouais. Donc l'immense majorité crie que oui. Roland démarre alors son discours plein de mensonges et Eddie le trouve très bon. Un peu trop d'ailleurs, je crois que ça le trouble un peu. Le plan sera, de ce que dit Roland, la veille de l'arrivée des loups, on réunit tous les enfants concernés dans la grande tente sur la place. Les sœurs Orisa s'occuperont d'eux. Le lendemain matin, des gens de confiance, dont il révélera les noms plus tard, les emmèneront dans un endroit secret. Roland ayant fait courir le bruit que ce sera à la grotte de la Gloria, tout le monde pense connaître l'info. Le but est d'attirer les loups là-bas et que les pistoleros et quelques lanceuses de plats les attendent. Un fermier essaye de convaincre que tout ceci n'est que folie, mais la foule le fait taire. Et là, coup de théâtre, Roland dévoile qu'ils savent que ce sont... Et là, coup de théâtre, Roland dévoile qu'ils savent ce que sont les loups, que Jamie Jafford en a vu un. Et ce qu'il dit... c'est qu'il s'agit des serviteurs morts-vivants des vampires de Tonnefoudre. Donc c'est là qu'il flippe un peu que Jamie Jafford, il ouvre sa gueule. Ils n'ont qu'un point faible, des branchies au-dessus du cœur. Contre toute attente, le grand-père Jafford se lève pour corroborer les dires de Roland, alors que ce ne sont que des conneries. Tout le monde l'a compris, normalement. Donc nous, on sait que, à ce moment-là, on sait que c'est pas ça, en fait, la résolution du problème. Donc, rendez-vous la veille des loups, à 19h. Embarquement des gamins à 21h, enfin, on les fout tous dans la tente. Y en a un qui dit que c'est mort, que lui, il donnera jamais ses gamins. Roland sent que ça attaque le moral des habitants de la Cala, mais il essaie de contrebalancer. Un autre dit qu'il ment, là encore, pirouette. Il ne peut pas mentir, puisqu'il n'a aucune certitude. Il est fort, Roland. En gros, pour convaincre que si, il faut amener tous les gamins, il dit, ben, c'est-à-dire que s'ils arrivent, qu'ils veulent prendre un jumeau sur deux, et puis qu'en fait, il y a que quatre gamins dans la Cala, ben, ils vont pas prendre un jumeau sur deux, ils vont prendre les quatre gamins, que ce soit deux jumeaux ou pas.
Ouais, puis ils vont foutre le feu et puis tout faire exploser aussi.
Ouais, mais ça, il dit, une grange, ça se reconstruit. Un gamin crâné, ça se reconstruit pas. Oui. C'est justement c'est son argument principal. Oui, il risque d'y avoir des dégâts, mais est-ce que ça vaut pas le coup? Après l'AG, le pot de l'amitié, les gens papotent, tout ça, et Ben Slightman vient un peu pêcher des nouvelles auprès de Roland. Il a pour mission d'avoir le plus d'infos possible. Roland lui demande de faire partie des gens de confiance qui accompagneront les enfants. Ben dit être très flatté. Roland le baratine sur le plan, donc sur comment ça va se passer, et Ben promet de n'en parler à personne. Finalement, Ben et Roland regardent Benny et Jake jouer ensemble comme deux frères. C'est beau. Débrief du cathète en rentrant de l'AG. Ça s'est plutôt bien passé. Susanna décide de ne rien dire au sujet de ses maux de tête et de ses crampes d'estomac. Bravo Susanna. Chapitre 6, avant l'orage. Le lendemain, de retour à la grotte de la porte, c'est Eddie qui gère la boule pendant que Callahan part chercher Calvin Tower. Enfin, c'est ce que je croyais, mais en fait, il fait une escale avant. Eddie se rend compte qu'il y a un truc dans la doublure du sac qui sert à trimballer la 13e noire, mais il estime que c'est pas le bon moment pour essayer de comprendre ce que c'est. Callahan donc passe la porte, arrive dans une bibliothèque, pique le livre dont il a besoin et revient. Il s'agit d'un bouquin sur le bled ou ce Plank Tower. Ça va permettre de se concentrer dessus et d'atterrir là-bas au prochain voyage par la porte, puisqu'il faut se concentrer sur l'endroit où on veut aller. Eddie dit qu'il va regarder dans la doublure du sac pendant qu'il attend le père Callahan, mais il oublie. Et là, King nous fait une King en nous disant que c'est Susanna qui trouvera ce qu'il y a dans la doublure et qu'à ce moment-là, elle n'était déjà plus elle-même.
Ta ta ta.
Callahan arrive dans le bled où beaucoup trop de choses ressemblent à la Cala. J'ai pas noté le nom du bled, alors c'est le bled. Il passe à l'épicerie acheter le journal et se rend compte que s'il ne s'est passé qu'une demi-heure dans la grotte, il s'est passé en réalité une journée dans l'autre monde. Donc là, ils sont le 25... je crois que... Enfin, ou le 27 juin. On est déjà demain, quoi. Il demande à l'épicier où est la poste et reprend son chemin. Dans la grotte, Eddie en chie des caisses, mais il arrive à se concentrer sur autre chose. Il prend un bouquin. Alors, je pensais que c'était le même que celui que Roland avait mis de côté, mais non, en fait, c'est un autre, c'est un de Sherlock Holmes. Et il attend patiemment. Callahan a réussi à trouver la poste restante de Dipno et laisse une lettre avec des indications, notamment d'arrêter de donner leur nom partout, parce qu'ils sont quand même recherchés par des mafieux. En sortant de la poste, il regarde par la porte magique et ne voit plus Eddie. Eddie s'est barré. Callahan revient dans la grotte, voit un livre qui empêche la boîte de se refermer et retrouve Eddie sur une crête, sur le point de se jeter dans le vide. Il le rattrape de justesse. Eddie qui a l'air ailleurs. Ouais. Eddie qui a l'air. Ouais, mais c'est. En fait, là, Eddie, il est sorti, il est monté sur une crête parce que le. On a. Enfin, on, alors je sais pas qui a réussi. La boule a réussi à le convaincre que il peut voler jusqu'à la tour. Donc là, il était prêt à s'envoler finalement.
J'avais il pas voulait intuité. Flotter.
J'avais pas intuité qu'on pouvait se jeter volontairement dans le trou derrière pour essayer de rejoindre les voies, en fait.
Si fait.
Bon, Callahan arrive à récupérer le mental d'Eddie et à le faire redescendre sur Terre.
D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Callahan se dit qu'il a, il l'a senti un peu comme avec, avec son intuition de pistolero. C'est la première fois que lui-même se sent pistolero dans cette histoire.
Ah ouais?
En tout cas, qu'on nous le présente comme un pistolero.
Ok. Débrief avec Roland. Tower n'est pas prudent, mais tant pis. Il devra attendre que l'affaire des loups soit réglée. Susanna a des contractions de plus en plus. Puis, ça se calme. Elle décide de garder ça pour elle. Il faut que tout le monde reste concentré. Elle ressort des toilettes et se rend compte qu'elle n'y est pas restée 5 minutes comme elle le pensait, mais plusieurs heures. Et donc, en fait, c'est Mia qui a repris le contrôle entre deux. Tian et Eddie vont à la rencontre d'Andy pour lui filer des fausses informations. En l'occurrence, que le père Callahan a ramené des armes puissantes de son niveau de la tour et qu'elles vont arracher la tête des loups. Eddie et Tian ont besoin d'Andy pour les déplacer au nord de la ville parce que c'est beaucoup trop lourd. Eddie demande à Andy de ne parler de cela évidemment à personne et Andy promet. La veille des loups, Jake dort chez Benny à la demande de Roland. Jake, il veut plus y dormir là-bas, mais Roland lui dit « on a encore besoin de toi, sur place ». Il est en stress, il est chonchon, il fait des cauchemars. Les loups arrivent demain. Eddie et Susanna se disent à quel point ils s'aiment. Eddie est convaincu qu'il va la perdre, ça pue les adieux. Scène d'adieu aussi du côté de Rosalita et de Roland, mais là, bon, on savait que ça durerait pas, donc bon, c'est pas. Voilà. Durant la journée, la très grande majorité des habitants de tous les recoins de la Cala se massent dans le village. Pendant ce temps, Jake, Eddie, Roland et Callahan vont creuser des tranchées du côté de la grotte dans laquelle ils ont dit qu'ils cacheraient les enfants. Roland est très inquiet de voir une tempête arriver au loin. Callahan lui dit que d'habitude, elles ne vont pas au-delà de la rivière, mais qu'il va quand même faire une petite prière au cas où. Le problème d'une tempête, c'est que pour lancer le plat, c'est pas pratique. Vers 16h, Eddie les quitte pour rejoindre Andy et Tian, à qui il a donné rendez-vous pour soi-disant bouger des armes. Eddie va essayer de craquer le mot de passe d'Andy. Puisque à chaque fois qu'on essaie d'aborder le sujet des loups, etc., Andy passe en mot de passe. Enfin, il faut un mot de passe. Donc là, il va essayer de craquer ce mot de passe. Il a dit, il va essayer 19, il va essayer 99, il y en a un des deux qui va forcément marcher. Eddie retrouve Tian au presbytère, Rosalita est dedans, mais elle a un stock de plats à lancer au cas où elle le signale, quoi. Andy arrive tout mielleux. Eddie lui dit que les armes sont dans les toilettes, Andy y rentre. Les armes sont pas là, Andy se retourne, Eddie lui tire une balle dans chaque œil, l'autre se met à brailler. Mais genre, vraiment, c'est-à-dire d'abord il crie qu'il est devenu aveugle, et puis après il y a une alarme qui se déclenche. Mmh.
Comme Shardik. Ou comme exactement. Les... Je sais pas si c'est Shardik ou les autres robots qui étaient avec Shardik, mais on nous ramène.
C'est Shardik.
Ouais, c'est ça. Mmh.
Eddie l'enferme dans le cabanon, mais Andy le détruit. Il balance aussi une alarme qui rameute les voisins. Eddie finit par déclencher le mot de passe. Il essaie d'abord 19, mais ça ne marche pas, puis 99, et ça marche toujours pas. Il se souvient alors du poème sur la palissade du terrain, on en parlait tout à l'heure, du terrain de la Rose, qui disait « Oh Susanna Millot, ma chérie divisée, a garé son semi-remorque dans son cochon du Sud l'année 99. » Il a une illumination. Ce n'est pas 19, ce n'est pas 99, mais c'est 1999, qui ne se traduit pas en français, puisqu'en anglais on dit 1999 pour donner une année.
Putain. Très bon film avec Arnold Schwarzenegger.
1999 ? Ok.
Enfin, bon.
Non.
Par contre, je serais intéressé de savoir en anglais comment ils ont fait avec 99.
Ben, 99.
C'est 1999.
Ouais. J'y ai même pas pensé, parce que moi, déjà, c'est 99, tu vois.
Ah oui, bah oui, toi, t'as encore un autre problème de traduction.
Oui. Après, j'ai compris, hein, mais...
Andy change de mode. Eddie a accès à diverses fonctions. Il lui demande de couper ses circuits. Andy chouine et supplie. Moi, je trouve ça un peu bizarre pour une machine, mais bon. Il ne pourra sûrement jamais se...
Machine avec...
Avec des émotions.
Avec des émotions, quand même.
Non, moi, je pense qu'il tente, au bluff.
Ouais, mais c'est une machine, quoi.
Tu vois, c'est une machine, mais comme dit Julien, il a des émotions. Enfin, il prend plaisir à torturer les habitants. Oui. C'est pas non plus... c'est pas rien. Donc, effectivement,
oui,
il a envie de survivre.
Il a,
un instinct de survie.
Oui.
Il a son rire, les yeux qui clignotent.
Ouais, mais que les développeurs, les codeurs et tout ça, ils aient prévu ça, ok ? Qu'ils aient prévu qu'au moment où on lui demande de se déconnecter, il chouine et il supplie, je trouve ça étrange.
Ben, un sens de l'humour et rigoler dans certaines situations, ouais. Et pas dans d'autres, c'est pas non plus... Enfin...
Bon, enfin, bref. De toute façon, Andy il peut chouiner tout ce qu'il veut. Quand il dit oui, mais je risque de pas réussir à me rallumer, ça fait pas pleurer Eddie. Hein.
Bon, je pense que ça émeut personne.
Non. Donc, il coupe tout. Se déclenche alors le message d'alerte, comme pour Shardik, l'ours dans la forêt, qui dit de prévenir l'industrie Lamerck si on le trouve, etc. Rosalita propose de l'enterrer sous les toilettes. Cette solution convient à Eddie. Dernière soirée. Overholzer vient trouver Roland pour lui demander de participer au sauvetage des enfants. L'une des personnes qui devait s'en charger est malade et il n'arrive pas à rester là sans rien faire. Je pensais que c'était un piège. Comme de par hasard, une des personnes de confiance est malade. Bon, en fait, c'est pas du tout un piège. Donc Roland lui dit que c'est d'accord, mais que les choses ne vont pas se passer exactement comme il l'a dit au début et il faudra que Overholzer suive et qu'il discute pas, quoi. La bataille aura lieu dans quelques heures et elle se finira quand l'un des deux camps sera mort. Chapitre 7, dernier chapitre, les loups. C'est le petit matin. Les chariots remplis des 99 enfants qui risquent de se faire rafler sont en route pour les planquer. 99 puisque Benny n'a plus sa jumelle. Roland mène un des chariots avec Ben Slightman à côté de lui qui n'emmène pas large. Il veut savoir ce qui va lui arriver. Il a bien deviné que Roland sait qu'il a trahi. Il a deviné pour Andy, donc il sait pour lui, c'est sûr. Même s'ils en ont jamais parlé avant. Roland lui dit que Jake était au centre de contrôle une fois où ils y sont allés avec Andy, et il demande à Ben s'il aurait tué Jake, s'il l'avait trouvé. Ben dit que oui. Roland, à ce moment-là, il sait que, du coup, il fera rien pour défendre Ben, quoi. Roland lui dit que si les loups gagnent, il mourra, et son fils aussi. C'est les loups qui les tueront. Si la Kala gagne, ni Andy, qui est désactivé, ni le cathète ne le balancera, pas par bonté d'âme, mais par respect pour Jake qui en a fait la demande. Et du coup, pour l'honneur de Benny qui a rien demandé.
Là, Roland, il est quand même plus gentil.
Dans ce passage, on sent que si ça tenait qu'à lui, il lui aurait tiré une balle dans la tête au moment où il a dit oui, j'aurais
tué. Roland fait des efforts, on sent qu'il évolue un petit peu.
Roland fait des efforts, et d'ailleurs, à ce moment-là, dans ce moment-là, il appelle Jake mon garçon, puisque. Ben appelle Benny mon garçon, Jake l'appelle mon garçon, et il dit à Ben qu'il l'aime, machin, et que de toute façon, il le défendra, quoi.
C'est un persévère, quoi.
C'est ça. Roland donne une chance à Ben d'aider dans l'entreprise qu'ils sont en train de mettre en place. Ben murmure qu'il a fait ça pour essayer de sauver son fils et que c'est Andy qui est venu le trouver pour lui promettre ça. Andy lui a expliqué qu'il y a un peuple, les briseurs, des humains prisonniers qui se nourrissent comme n'importe quel humain, mais aussi de nourriture cérébrale. Ils sont télépathes et psychokinesthésiques. Ils se nourrissent du lien psychique qu'ont les jumeaux dans leur tête. Et j'ai pas tout bien saisi, mais c'est un truc comme ça, quoi.
En gros, c'est des briseurs de rayons, c'est ce qu'il faut en retenir.
Voilà, et c'est ça que j'ai oublié de noter, en fait, à cet endroit-là. C'est que ça m'est revenu au début du truc.
On te le rappellera, et puis...
Oui. Ouais. Mais pour Roland, parce que Ben dit, je sais pas qui sont ces gens, j'en ai jamais entendu parler, et Roland dit que leur rôle, ça va être de briser les rayons pour faire tomber la tour. Et donc c'est là que Roland pense que c'est pas un hasard si la sœur de Benny est morte. Andy avait raison... Andy avait besoin d'un parent éploré qui risque de perdre son seul enfant encore en vie. Donc c'est de la pure manipulation depuis le début. Ouais. Il finit par dire à Ben que la meilleure chose qui puisse arriver à son fils aujourd'hui, c'est de voir son père mourir en héros. Et oui, enfin, au final, Ben, c'est pas un pur salaud qui a voulu se faire du fric sur le dos des pauvres habitants de la Cala, quoi. C'est, Alors, Roland, il est OK avec ça, mais il dit si... Enfin, il a quand même accepté les lunettes, il a accepté deux, trois trucs autres que la sauvegarde
de son fils. Ouais.
C'est en ça qu'il dit que, du coup, il est pas
il
si bon
que ça. Il s'est
laissé
un peu acheter en plus de juste vouloir protéger son fils.
Mais bon, enfin, dans le fond... Enfin, moi, j'ai pas de haine contre Andy, oui, pas contre Ben.
Ouais, ça fait un peu écho à Cimetière, parce que Cimetière, l'histoire, c'est les mauvaises décisions que tu prends quand t'es désespéré par la perte de tes enfants, quoi.
C'est ça.
Ça me fait penser un peu à ça.
Exactement. Ouais. Les voilà arrivés à l'entrée du canyon de la grotte. Au début, tout se passe bien, puis tout part en couille. Dans tous les cas, c'est la faute au cas. Ce paragraphe équivaut à un, et c'est la dernière fois qu'il l'a vit en vie. C'est une king. Voilà le plan immédiat. Jake, Benny et les jumeaux Tavry vont remonter jusqu'à l'embranchement des deux grottes dans le canyon en marche rapide en laissant tomber de temps en temps un des objets que Jake a récolté auprès des gamins. Ensuite, le groupe des jumeaux va s'avancer dans le canyon et reviendra quand Roland les appellera. On comprend que c'est pour simuler le passage de nombreuses personnes. Roland révèle alors, et puis aussi pour qu'il y ait leur odeur. C'est ce que Roland explique après. Roland révèle alors que les gamins seront en fait cachés dans la rizière plus loin. C'est à ce moment-là que le nuage de poussière provoqué par les chevaux se fait voir. Jake et ses trois comparses se mettent en route. Les autres gamins suivent un peu plus loin. Pendant ce temps, Roland révèle que les loups sont en fait des robots avec une antenne sur la tête, comme ceux qu'ils ont croisés dans la clairière de l'ours, comme l'ours d'ailleurs.
Il suffit... petit chapeau de pensée.
Oui, il suffit de dégommer cette antenne pour les tuer. Tout le monde est sous le choc en apprenant cette nouvelle. Et vous, est-ce que vous aviez deviné?
Non.
Toujours pas. J'avais deviné quand ils insistaient lourdement sur le fait que tous les chevaux étaient gris, tout pareil. Et je me suis dit, les loups, les loups, ça doit être soit des clones, soit un truc produit en série, quoi.
Moi, j'avais deviné que c'était des robots parce que j'avais pas deviné que c'était ces robots-là avec le petit truc de pensée, là. Mais je pensais que c'était des robots comme Andy, puisque quand Jake va à l'entrepôt, il dit qu'il voit les empreintes de pas légères de Ben Slightman et les empreintes de pas moins légères de Andy, et que bientôt il y aura plein de traces de pas moins légères quand les loups seront là. Et moi, c'est là que ça m'a fait tilt, en fait c'était des robots. Putain, j'avais compris.
Il y avait des indices tout le long du livre.
Et je commence à le connaître, Papy King. Donc il explique aussi qu'il va falloir aller vite, disperser les gamins dans la rizière, parce que les loups, ils arrivent, loin de la route, et qu'il ne faut qu'on voit pas leur passage dans les champs. Faut pas qu'il y ait une longue trace de gamins qui courent dans les champs, quoi. Il rappelle alors les enfants qui font demi-tour dans le canyon. 99 enfants qui ont tout compris à la première explication. C'est du ta gueule, c'est magique. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça.
Bon, oui. Ils sont accompagnés quand même.
Mais c'est 99 gamins. Hein. Déjà, quand t'en as 3, tu peux mettre 3 adultes et que ça se passe pas bien. Grand point, tu veux en parler?
Non.
C'est impossible. Ça ne se passe pas. Mais ne serait-ce que... Pas parce que c'est des gros cons. C'est déjà 99 personnes adultes. Tu ne
mais
donnes
si
pas la consigne qu'une
seule fois. Les enfants,
c'est
des gros cons, tu l'as dit.
Donc bref, on verra de toute façon qu'ils n'ont pas tous tout compris.
Ah, surtout, il n'y a pas où ils marchent.
Voilà. Les loups se rapprochent très vite. Normal. Leurs chevaux sont en fait des propulseurs, des sortes comme des petits véhicules, mais en forme de chevaux pour faire croire. Roland est confiant. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Pendant que les anges gardiens, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, embarquent les gamins, les combattantes se préparent. Eddie est inquiet de ne pas voir revenir les quatre gamins partis en premier. Roland lui dit que tout va bien. Donc Susanna explique qu'ils vont tous se cacher dans des tranchées qu'ils ont creusées, donc Roland et les autres, la veille, sous des planches, et n'en sortir que quand tous les chevaux seront engagés dans le canyon. Au loin, les chevaux ne sont plus si loin que ça. Et Roland commence à se dire qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est mal passé pour Jake et ses compagnons. Et effectivement, ils ont rencontré un petit problème. En revenant, les jumeaux ont été pris de panique et se sont mis à courir, alors que Roland avait dit « on court pas ». Franck s'est cassé la cheville et en tombant, il s'est explosé le crâne sur un rocher. Il y a donc du sang un peu partout. Sa sœur est sous le choc. Benny est hébété. Jack, le sociopathe, se dit « ah mince, problème ». Franck n'est pas mort, mais son pied est toujours coincé. Jake, grâce au Shining, se rend compte qu'Eddie veut venir voir ce qu'il se passe. Il essaie de lui envoyer un message pour lui dire de ne surtout pas venir, qu'il se débrouille, mais il ne sait pas si ça marche, il ne l'a jamais fait avant. Le plan de Jake, c'est de dégager le pied de Franck et de trouver à se planquer au pire, s'ils mettent trop de temps. Quand Benny et Jake essaient de dégager le pied de Franck, celui-ci pousse un hurlement de douleur, mais son pied reste coincé. À l'entrée du canyon, ça s'organise pour s'installer, mais Susanna a l'impression d'avoir entendu quelque chose. Roland sait qu'ils ont des problèmes. Il a capté le message de Jake. Eddie aussi. Mais il veut quand même y aller. Aller aider Jake. Alors Roland lui dit non, Jake il veut pas que t'y ailles, alors t'y vas pas. Et du coup, Eddie et Susanna se planquent. Donc, et puis dans la tête de Roland, quand on fait le calcul, d'un côté il y a 4 gamins, puis de l'autre côté il y en a 100. Donc, c'est potentiellement sacrifier 4 pour en sauver 100. Et sur ce genre de truc, il reste cohérent. Hein, là, il fait pas rentrer les sentiments dans ce genre d'affaires. À force de cris, de douleur et de tours de force, Franck est libéré. Roland entend les hurlements et en bon sociopathe, lui aussi, il se dit « ah, c'est bon, Jake a géré le problème ». Les loups sont très proches. Roland aimerait bien voir Jake arriver quand même, c'est sa dernière chance. Dans le canyon, les gamins arrivent en courant, entraînant le blessé derrière eux, mais au moment où ils arrivent à l'entrée, ils voient Roland se planquer. Que faire maintenant ? Dans sa planque, Susanna ressent une immense douleur dans le bas-ventre, puis dans sa tempe. Elle voit une immense salle de banquet. Elle comprend que Mia essaie de prendre le contrôle, mais Susanna lutte. Elle dit à Mia qu'elle est prête à l'aider à mettre au monde son bébé et qu'elle doit d'abord mener ce combat contre les loups et que si elle doit se faire tuer ou faire tuer le petit gars pour y arriver, elle le fera. Elle entend alors une voix lui dire que c'est ok et qu'elles vont aussi s'entraider pour ce combat. Benny et Jake traversent la route qui sépare l'entrée du canyon de la planque, entraînant Franck. Tout le monde se jette dans la planque. Il ne reste que quelques secondes. Roland demande aux jumeaux et à Benny, pour leur vie, de ne pas se montrer pendant l'attaque. Les loups sont là. Une fois que Roland est sûr qu'une partie est rentrée dans le canyon, pendant qu'une autre se dirige vers la ville, il sort de son trou en appelant les autres à faire de même et à tuer tous les loups. Bon alors là, ça tire dans tous les sens, les loups tombent les uns après les autres, mais ils sont très nombreux. Margaret Eisenhart se fait décapiter, ce qui met Benny en panique. Il sort de sa planque et part en courant, mais un loup le repère et lui lance 2 vifs d'argent. Jake en détruit un, mais l'autre...
Oh. Putain, j'ai eu trop peur.
T'es un ouf.
Mais que t'es con.
Magnifique.
Il est content.
Jake en détruit un, il n'a pas le temps de détruire l'autre, le vif d'argent se plante dans Benny explose, littéralement. Jake devient fou.
Il reste un bras.
Il reste un bras et ses vêtements, en gros.
Jake, un bras qui aura son importance pour la suite.
Jake... Oh. Oh bon ? Tant que ça. Bon. Jake devient fou de voir ça. Eddie a réussi à se procurer de ses vifs d'argent et il a marqué que c'est le modèle Harry Potter. Donc il tue encore quelques loups. Non, ben non. Mm. Eddie pense que c'est l'inventeur de cette machine à tuer. Mm. Eddie voit que l'un d'eux a un sabre laser, comme dans la guerre des étoiles, parce que plusieurs fois ils reviennent dessus en fait que Jake a disparu de son monde un mois avant la sortie du film, alors qu'il attendait ce film. Et Eddie, lui, 87, il a eu le temps
de le voir au moins 10 fois.
Voir plus.
À ce moment-là, dans le bouquin, je me suis senti un petit peu comme dans Ready Player One. avec
trop de références.
trop de refs à la pop culture.
Juste pour expliquer ce qui...
Ouais, ouais, avec des références et ensuite en expliquant d'où elles viennent.
Ouais, il y en a quand même genre 100 fois moins que dans...
Non, c'est sûr.
Ouais, sauf mais que c'est, en fait, sur une... c'est sur tellement moins de temps que du coup, c'est pareil.
Voilà, c'est, en fait, c'est...
Non,
là, c'est...
Ready Player One, tu peux avoir 20 marques sur une page.
Oui.
Une.
Mais bon, bref.
Une pomme, une.
Ok.
Ne lisez pas cette merde.
J'ai vu le film, mais j'ai pas lu le livre. Donc, Eddie voit que c'est les Lumitrix, en fait, que ce sont des sabres laser. Mais vraiment, les mêmes que dans la Guerre des Étoiles, sauf que c'est des vrais, pas en plastique. Les loups... donc c'est à ce moment-là que Jake part en courant, enfin, de ce que j'ai compris, part en courant vers le canyon pour finir les loups qui restent. Eddie, Roland et Rosa, donc Rosa, Lita, le suivent. Les loups tombent les uns après les autres. Susanna finit le dernier, 61 loups à terre. Le compte est bon. Pendant que Zalia et Rosa apportent la bonne nouvelle aux gamins cachés dans la rizière, Roland décide de parler en tête, donc de faire un conseil. Avec son cas-tête. Jake vient de subir un choc terrible, la cellule psychologique est en place. En partant, les sœurs d'Orisa croisent Susanna, lui disent grand merci et s'en vont. Rosa, elle se dit, il y a un truc bizarre chez Susanna, mais bon, il n'y a pas trop le temps de prendre du temps. Mais effectivement, c'est plus Susanna, c'est Mia. Elle est en train d'accoucher et elle doit se protéger des amis de Susanna. Elle ramasse un vif d'argent, au cas où, et se prépare à jouer la comédie en attendant le bon moment pour se barrer. Pendant que le cas-tête accuse le coup, ils entendent dans le fond de la rizière les cris de joie des enfants et de douleur de deux hommes. C'est le père de Benny qui arrive en premier sur les lieux. Roland pense qu'il faudra le raisonner. Alors tout ce passage, je l'ai lu, mais en larmes.
Ah ouais?
J'avais les yeux qui brûlaient et tout. Ah ouais, ouais, c'était nul. Et c'était il y a 3 heures. Donc c'est le père de Benny. J'ai beaucoup trop d'empathie pour ce genre de scène dans les films et dans les livres. Donc le père de Benny qui arrive en premier sur les lieux, Roland pense qu'il faudra le raisonner avant que les autres n'arrivent, sinon il signera le début de sa fin de traître. Le père de Benny pense que Roland a tué son fils pour se venger. Jake lui raconte tout, Ben le croit, et il casse ses lunettes, il dit qu'il a vu tout ce qu'il avait à voir, notamment son gamin explosé par terre. Et il s'éloigne pour aller pleurer son fils. Eisenhart arrive dans le même état, donc lui c'est sa femme qui l'a perdu. Quand Callahan les rejoint, il fait un signe de croix et Roland en demande un pour lui aussi parce que Eisenhart, il avait quand même promis de le maudire s'il arrivait quoi que ce soit à sa femme. Mais finalement, il le fera pas. Entre deux, Susanna a disparu, mais Eddie suppose qu'elle a préféré ne pas assister à la scène du père éploré. Les enfants et les adultes restants rentrent au village en chantant malgré la perte de deux des leurs. Sur le retour, Jake et Eddie discutent. Eddie explique que les Lumitrix sont exactement comme les sabres laser de Star Wars. Et je vous renvoie à l'épisode précédent dans lequel je disais que vu la description de ces machins, ça ressemblait vachement à des sabres laser.
Bien joué.
Les loups, quant à eux, sont des copies de Doctor Doom de Marvel. Et là, donc, j'ai pas la ref. Donc, je crois que Grand Poil avait un mot à dire et Emily développera plus tard, c'est ça?
Oui, c'est le docteur Victor von Fatalis, le dirigeant de la Latverie, qui a une spécialité, c'est d'avoir plein de, comme il est vêtu toujours dans une armure toute grise avec justement cette cape, avec une capuche toute verte. Et il a des Doombots, donc des répliques de lui, toujours robotiques, qui vont partout à sa place. Donc à chaque fois qu'un super-héros le tue ou vince, mon Dieu, c'est un robot, c'est pas le vrai. Et hop, on est reparti pour un tour.
C'est vrai que les illustrations dans le bouquin ressemblent vachement à Docteur Doom.
Ok. Et donc, alors autant Star Wars, il y a que Eddie qui connaît, Docteur Doom, c'est assez vieux, et Jake connaît aussi. Pour les vifs argent modèle Harry Potter, Eddie et Jake supposent que ça apparaîtra dans un Marvel de 99 ou de 1995. C'est à peine mignon. Le temps de se demander où Susanna était passée et de se dire qu'elle était sûrement en train de récupérer son fauteuil que les habitants de la Cala les embarquent dans une folle farandole. C'est Rosalita qui donne l'alarme. Susanna n'est nulle part et son fauteuil a disparu. Roland comprend de suite. Il appelle Eddie et Jake. Il faut vite aller vers la grotte de la porte. Mia doit être en route pour là-bas avec la 13e noire. Alors, elle était sur place, en fait, la 13e noire. Roland a envie de croire qu'ils arriveront à temps, mais il n'y croit pas une seule seconde en réalité. Épilogue. La grotte de la porte. Roland, Eddie, Callahan et Jake se précipitent. Ils trouvent le fauteuil de Susanna en cours de route, ce qui veut dire qu'elle a fait tout le reste du chemin à environ 2 km sur les coudes, quoi. Et une fois arrivés là-haut, ils trouvent un petit quad qui tourne encore. L'hypothèse la plus probable, c'est que ça vient de l'entrepôt de centrale positronique que c'est Andy qui a amené ce truc ici pour que Mia puisse monter jusqu'à la grotte. Pourquoi ? Aucune idée. J'espère qu'on aura une réponse à un moment, parce que là, pour le coup, sinon, c'est vraiment du foutage de gueule.
Peut-être.
Ouais, peut-être. Mais peut-être que Mia, Roland... c'est la Nadine de la tour sombre.
Ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, même Roland, à ce moment-là, dit que c'est effectivement l'explication la plus probable, mais qu'il aime pas trop quand il n'y a pas de vraie explication. Donc, sur ce coup-là, je suis avec Roland. La 13e noire a disparu, la porte est bien fermée, donc Mia a passé la porte avec la 13e noire. Eddie devient fou de ne pas savoir comment retrouver et protéger Susanna de son bébé démon. Puisque toutes les voix dans le gouffre, là, derrière la porte, disent que son bébé va la bouffer. Et puis, Roland, lui, il semble bouquiner. Et en fait, il cherche le bouquin qu'il avait mis de côté la dernière fois qu'il est venu. Et en fait, il s'agit de Jérusalem Slot, d'un certain Stephen King. Et là, je dois vous avouer que j'ai eu un petit soupir de... Non, mais sérieux, quoi.
Ouais, moi aussi, quand même.
Bref, bon. Personne n'a jamais entendu parler de cet auteur, mais ce qui est troublant, c'est que ça parle de l'histoire du père Callahan, le roman, et que l'église dessinée sur la couverture ressemble comme deux gouttes d'eau à la salle du conseil de la Cala et à l'église du bled où se planque Calvin Tower. Eddie, ça le rend fou que cette histoire de tour, parce que donc du coup tout ça serait lié à la tour, que cette histoire de tour semble passer avant le fait de retrouver Susanna. Mais finalement, ça pourrait aider. Ce qu'il y a écrit dans ce roman, donc dans cette fiction, est exactement ce qui arrive à Callahan. Ça parle même de Monsieur Flip, le croque-mitaine de son enfance dont il n'a jamais parlé à personne. Callahan crie qu'il est un personnage réel, moi je patauge à me dire que je vais devoir résumer ce passage. Donc,
je patauge.
Eddie demande si Callahan a vraiment passé à Monsieur Flip quand Barlow lui a fait boire son sang. Callahan dit que oui. C'est là que Eddie tilte, que ça veut dire qu'ils vont pouvoir retrouver Susanna et que Roland dit que la tour sombre est tellement proche qu'ils peuvent presque la toucher. Il pense qu'avec l'aide des habitants de la Cala, il pourra ouvrir la porte. Moi j'ai pas fait le lien, mais je me dis que soit j'ai rien compris, soit on nous l'expliquera dans le tome 6.
Non, on l'a pas encore. Ou alors Callahan, on est très malin.
Ouais. Callahan boucle sur... On est très malin. Callahan boucle sur le fait qu'il n'est pas un personnage de fiction. Puis il commence à douter. Mais j'en sais rien. Jake se souvient où il a déjà vu le nom de Stephen King. Sur l'ardoise de la librairie de Calvin Tower. Quand ils y sont allés, va à Dash. Avec Eddie. Mais pas quand ils y sont allés pour de vrai. Eddie s'en tape de ce qui est réel ou pas. Il veut retrouver Susanna. Pour Roland, c'est évidemment ce qu'ils vont faire. Et ils vont le faire ensemble. Fin.
Tain, tain, tain.
J'ai plus d'eau.
Va chercher de l'eau.
Non, c'est trop loin, je vais demander à ce qu'on m'en amène.
Merci, Pomme, c'était un très bon résumé.
Oui.
Ah.
Ouais.
Oui, oui, malgré la douleur des deux derniers jours, bravo, vraiment.
Putain,
je l'aurais pas fait.
J'ai pu. Mais de toute façon, alors, je dois vous avouer que vers 2h du matin, cette nuit, quand j'étais encore en train de résumer, j'ai regardé dans le Doodle si on n'avait pas eu notre date en commun pour ça. Et il n'y en avait pas. Ouais. Il n'y en avait pas. Sinon, franchement, je vous aurais proposé. Et coup de bol, j'ai eu une journée plutôt légère qui m'a permis de finir sans stresser.
Et heureusement que tu as bien aimé cette deuxième partie,
oui.
Sinon ça aurait
alors,
été vraiment
contre,
dans la douleur. Quoi.
Je suis en train d'imaginer la même chose sur un Joyland, par exemple, ou sur... Ou c'est pas forcément un livre qui m'a saoulé, mais un livre qui m'a...
Je pense que t'aurais voulu le bouquin et que t'en aurais jamais voulu
Je vous aurais dit, j'arrête, démerdez-vous. Je ne peux jamais faire avec
c'est
vous.
Fêlé.
Non, franchement, heureusement que c'était bien. Pour moi, pour l'instant, malgré les passages de Callahan, c'est mon tome préféré de La Tour Sombre.
Ouais.
Sans hésitation.
Et bien sûr.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà.
En fait, ça remonte, à chaque fois, ça remonte un peu. Parce que comme je ne me souviens pas des tomes à chaque fois, j'avais Magie et Cristal qui était dans mon souvenir celui que je préférais, ce qui se passait avec Roland tout dans sa jeunesse, et en fait non c'est beaucoup mieux.
Vraiment c'est le truc de Callahan, comme on l'a déjà dit avec Emmerich plusieurs fois, qui plombe un peu, mais non, sinon vraiment c'est je trouve que c'est le meilleur tome, et ça se finit du coup sur une de mes deux hypothèses, c'est-à-dire qu'on boucle l'histoire des loups de la Cala. Et on ne finit pas l'histoire de Susanna. C'était ça en fait qui me faisait peur. C'était ce truc de bâcler Susanna, bâcler la fin de l'histoire de Susanna.
Et le prochain tome s'appelle Le chant de Susanna.
Voilà.
Ah. Ah. Ah ah ah.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter ?
Ouais, mais on aimerait finir tôt.
Mais il est 23h36,
c'est
mort.
C'est bon. Allez hop. On y retourne.
Bon, eh bien, écoutez, alors on va passer à la suite. L'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King, quelqu'un a fait ça?
Oui, moi j'ai fait ça, mais avant, on a, en fait, en réécoutant le dernier épisode,
ah oui,
qui est
vrai.
Sur la première partie, il y a trois éléments où on se demande si on aura la réponse dans la deuxième partie. Donc je les ai notés, on va voir si on a eu la réponse à nos questions. La première, c'est à quoi ça servait de raconter l'histoire de Callahan? Est-ce que ça aurait pu être publié à part, à votre avis? Est-ce qu'au final, ça a servi le récit?
Oui,
ça renforce les liens.
Oui,
ça renforce
mais...
les liens entre l'univers, ouais. L'univers, on va dire, réel et l'entre-deux mondes.
Oui, mais je, comme je disais, on aurait pu avoir un. Il aurait clairement pu. Je pense qu'il en a sous le coude et qu'il aurait pu vraiment faire un vrai roman à part, voire plusieurs, et ne garder vraiment que l'essentiel nécessaire à l'avancement de la Tour Sombre tome 5.
Ouais, c'est un peu utile pour présenter l'articulation des mondes et comprendre un peu cette histoire de Vadash. C'est pas ça, tout est tellement flou que au pire
je pense qu'il aurait pu économiser 100 à 200 pages.
je suis pas sûr parce que ça participe aussi à construire comment dire un attachement à Callahan parce que tu sens qu'il va rester pour la suite un petit peu.
Ouais.
Donc s'il était venu en random en nous balançant deux pages sur son background et que derrière il embarquait dans l'aventure, t'aurais fait...
Non, mais Eddie et Susanna, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu autant de pages d'histoire pour être introduits.
Disons que c'est venu petit à petit, tandis
ouais,
que Callahan...
peut-être, mais tu vois,
il
y avait des backgrounds qui étaient peut-être moins fouillés, puis surtout qu'il y avait moins de connexion avec l'univers déjà, tu vois, il y avait
c'est
quand même
nobody.
Salem à l'origine.
Oui. Okay. Ouais.
Non, moi je suis d'accord avec Henrik.
Il montrait la déchéance totale de Callahan suite à sa rencontre avec Barlow et ce qui lui est arrivé derrière.
Bah, surtout sur la
effectivement,
fin...
Effectivement, ça aurait pu faire un spin-off complet à côté. Hein.
Ouais.
Peut-être qu'un jour...
Pour moi, il sert aussi le côté où Hure des Pommes, vous avez réagi sur le fait que, oh là là, Stephen King, il se met dans sa propre histoire et tout. Pour moi, c'est une façon de King de montrer que, un, le temps avance et que donc les rayons commencent à tomber et qu'il se rapproche de la tour et que ça veut dire que aussi les frontières entre les univers commencent un peu à tomber et à s'amincir et que tout se mélange et,
ouais,
et
ça,
un petit côté un peu comme ça.
Ça, je l'ai compris après, mais quand je t'ai envoyé le message pour dire « Oh, c'est un peu too much », on venait d'avoir Harry Potter, Star Wars,
ouais,
Doctor
Doom. D'un coup. Ouais.
Et là, Jérusalem Slot, je me suis dit « Bon, attends, on va se calmer, peut-être. »
C'est beaucoup d'un coup, ouais.
Puis après, en fait, c'est juste après, c'est juste que je t'ai envoyé le message pile au moment où j'ai lu le titre du roman. Et après, il le raccroche de manière logique.
Ouais.
Mais ouais, non, vous avez beau défendre l'histoire de Callahan, moi, elle m'a fait tellement chier à ce moment-là que je... Bon. Et vous, dans les commentaires, dites-nous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ouais, un petit peu moins. Par contre, je trouve ce qu'on voyait bien au niveau des rayons et des mondes, c'est l'histoire de billets de banque, quand il était sur les autoroutes, donc que d'un jour à l'autre, les figures des billets de banque changeaient. Donc c'est là que tu te rends compte que le temps, il était très bordélique.
Alors, puis, deuxième question qu'on... Vas-y, Julien.
Et puis, on a envie de savoir, c'est qui ces deux personnes
qui
sont venues le sauver?
Bon, je pense qu'on sait.
Ah, oui.
Ouais, on sait que c'est... Même t'as Eddie qui suggère à Calvin de s'acheter une bague avec marqué... Pardon, ex-libris.
Fais pas ton Jean Castex, là. Et d'ailleurs, il faut aller se faire vacciner.
Et du coup, je t'ai pas écouté.
Donc, tu penses que c'est Tower et son pote?
Ouais, clairement, oui, sûr.
Je pense pas qu'on reviendra dessus. Hein.
Ok.
Oui,
le sujet est réglé.
Mais quel jeu d'acteur et d'actrice, vous qui avez tout lu?
Oh, si tu savais.
Tout ce qu'on s'envoie en message privé sur les indices qui sont donnés au fur et à mesure de la lecture et on réagit tous les deux.
J'ai fait un ou deux gros clins d'œil pendant aussi que je balançais des infos, du genre, mais non, c'est pas important.
on dit rien. Deuxième question qu'on s'est posée, c'est sur les crânés. Qu'est-ce qu'on leur a pris pour qu'ils deviennent comme ça? Qu'est-ce qui faisait d'eux des humains? Qu'est-ce qu'ils sont devenus si ce ne sont plus des humains? Et là, je cite Pomme dans le texte.
Ouais, je trouve que... Alors, pour le coup, ça fait partie des trucs sur lesquels en partant du principe que l'histoire de la Cala est bouclée et qu'on revient pas dessus, après, est-ce que ça continue à s'étaler sur le tome 6, je sais pas, mais à l'heure actuelle, pour moi, il est allé un peu vite sur la résolution de l'explication de pourquoi on prend les gamins et pourquoi on les ramène comme ça.
Pour moi, c'est même pas expliqué. Enfin, il y a zéro résolution là-dessus, ouais, pour le coup.
Si, on leur prend le truc magique des jumeaux dans le cerveau pour le donner au briseur.
Ouais.
Bon, pourquoi est-ce que ça en fait deux des crânés et pas des, juste des morts? Pourquoi il y en a qui meurent? Enfin,
soit. Pourquoi ils grandissent? Pourquoi ils meurent plus
soit,
tôt?
Ouais, pourquoi tout d'un coup ça change carrément tout dans leur façon d'évoluer? Soit il a bâclé l'explication, soit on va revenir dessus plus tard. J'avoue que j'aurais plutôt tendance à dire qu'il a bâclé l'explication parce que King, la résolution, il
remboursé.
peut-être que je me trompe.
J'ai un doute dans ma mémoire sur la vraie réponse, mais je penche pour le bâclage, je crois. En tout cas, pour expliquer pourquoi les enfants qui reviennent sont dans un mauvais état pourquoi ils évoluent comme ça. Ça, je crois que effectivement, on n'ira pas.
Moins de Callahan, plus de crânés.
Oui. Et le dernier truc qu'on avait relevé, une phrase qui était qu'il y a 19 mots qui seront prononcés pour révéler le secret de ce qui se cache sous le masque du loup tué. Et vu que je l'ai écouté après avoir fini le tome, les 19 mots prononcés pour révéler le secret de ce qui se cache sous le masque.
On les connaît pas. Ce sont des Doombots dans sa vie.
Voilà. Ça faisait partie des trucs qu'on avait relevés.
Ce sont des robots. Non, ça sont des syllabes en plus. Ce sont pas.
On
devrait
retrouver le passage et ça se trouve que Marie de Prémonville, elle a pas.
Oui,
que ça fait peut-être. Ouais, ça fait peut-être 19 mots en VO au moment où il en parle et ça le fait pas en VF quoi. On n'est pas à l'abri.
Ça se trouve. Et on n'est pas à l'abri qu'il l'ait écrit à un moment et puis qu'il ait zappé de revenir dessus de manière très claire. Hein.
Oui, après, il est relu, La Tour Sombre, c'est relu par Robin Firth, qui, pour le coup, corrige tout au poil. A priori, s'il y a des bouquins où il n'y a pas trop d'incohérences de ce type, c'est plutôt La Tour Sombre. Et surtout les trois derniers qui ont été publiés de façon très très rapprochée. Donc là, c'était plus compliqué de se perdre.
Ok, bon.
Voilà. Bon, bah voilà. C'était les questions qu'on se posait.
Ça te parle pas en VO, Emmerich La résolution en 19 mots?
Non, ça me dit rien.
Ouais. Une grosse préparation de paiement qui n'a pas été payée. Voilà, merci. Bon, je passe à ma partie alors. J'enchaîne.
Vas-y.
Allez, vas-y. La place importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King par Emily.
Oui. Je vous générique. Pour répéter vite fait ce que disait Emmerich en intro, donc il a été publié en VO en 2003 sous le nom Wolves of the Cala et en VF en 2004 et traduit par Marie de Prémonville. D'ailleurs, Pomme, je crois que tu nous disais par ailleurs que tu avais un point traductrice.
Oui, j'ai un point traductrice et c'est pas un point pour râler. Alors comme on râle beaucoup, c'est important quand on râle pas.
Ouais.
C'est que je trouve qu'elle fait beaucoup de notes de traduction pour nous expliquer certaines références qui sont typiquement américaines, par exemple, et que potentiellement on n'aurait pas, ou typiquement d'une époque. Et je trouve ça très bien. Voilà, j'aime bien.
Ok, merci de le souligner.
Donc merci Marie de Prémonville.
Le roman, il a été nommé au prix Bram Stoker en 2003 et au prix Locus du meilleur roman de fantasy en 2004 et il est terminé pour ce dernier prix à la 4e place. En VO, il y a un sous-titre qui est Résistance en anglais dans le texte et il est dédicacé à Frank Muller qui entend des voix dans ma tête, je cite. Donc Frank Muller, on en a parlé, c'est le lecteur des livres audio en VO qui a eu un accident dont il parle dans la postface. Avant la publication du roman, il y a deux extraits qui avaient déjà été publiés. Le premier, c'est Calabrine Sturgis, qui a été publié en 2001 sur son site officiel, à mon avis un peu pour faire patienter les fans. Et il y a eu The Tale of Grey Dick, qui a été publié en 2003 dans un autre livre. Et les deux extraits, ils ont été incorporés sous une forme révisée dans le roman. Et une fois de plus, les illustrations, comme les précédents tomes, elles sont signées Bernie Weissbuch. Wigston, je sais pas, voilà.
Brighton.
Ouais, voilà, un truc du genre. Côté genèse, en fait, en juin 99, je pense qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois, King y frôle la mort après un accident de la route. En fait, il est renversé par un van et il en ressort grièvement blessé. On dit que chez les fans de King, on dit souvent qu'il y a un avant et un après 99 et que son écriture a changé et que ses thématiques ont changé. Mais surtout, en fait, je sais plus dans quel épisode j'en parlais. King, il a mis tellement de temps à avancer les premiers tomes de La Tour Sombre qu'il recevait souvent des lettres de personnes mourantes, de personnes dans le couloir de la mort, personnes mourantes, soit des gens malades, soit des personnes âgées, qui lui demandaient d'écrire la fin, parce qu'il voulait savoir ce qui allait se passer avant de mourir. Et King, vu qu'il a frôlé la mort, il s'est dit, en fait, je peux pas partir et pas donner de fin à cette histoire. Donc, Les Loups de la Cala, c'est le premier tome de La Tour Sombre à avoir été publié après son accident. Et donc, c'est le premier tome de ce qui ressemble vachement à une trilogie dans le cycle, parce que c'est le premier des trois derniers tomes qui ont été publiés en l'espace de 10 mois seulement. Donc, 10 mois pour 3 tomes, surtout quand on voit la taille du dernier tome, c'est très très court, surtout quand on sait que les 4 premiers, il a mis 20 ans à les publier.
Donc, ouais, c'est pour ça aussi. Du coup, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il soit aussi long. Il était en boulimie d'écriture, quoi. Donc ouais. Potentiellement, on se dirige vers de la diarescription.
Non, je pense
en fait,
que
moi, ça me rassure pas.
Ça explique le côté hyper fluide et le côté où il y a plein de préparation paiement parce qu'il sait exactement où il va pour une fois. Il a tout en tête. Je pense qu'il a plus ou moins un schéma en tête et que ça explique aussi que ça se finit comme ça. C'est parce qu'il sait. En fait, les anciens tomes, il l'arrêtait et puis il s'y remettait quelques années après. Alors que là, il écrit tout d'un coup et puis il a fait des coupures où il pouvait faire des coupures pour le sortir en 3 fois. En gros, c'est à peu près ça, quoi.
Est-ce que l'auteur du Trône de Fer pourrait prendre exemple sur King et écrire la fin avant de mourir? Ça serait gentil.
Il y a une conférence
d'arrêter d'écrire des préquels et des conneries, des séries à la con. Là, moi, je veux la fin de ces putains de bouquins.
Il y a une conférence entre deux qui est très drôle, justement, où ils comparent aussi leur déjà les volumes de publication et les routines d'écriture. Parce que King, quoi qu'il arrive, depuis 40 ans, il écrit tous les matins, quoi qu'il arrive, sauf, je crois, le jour de Noël. Et il leur parlait là dans des interviews récentes où, en fait, il se lève, il fait un peu de sport, il va pisser, il écrit, et après, il va promener son chien. Et tous les matins, il écrit pendant 3 ou 4 heures. Et tout le monde ne fait pas ça, mais ça explique aussi que du coup...
Ça veut dire que son chien, il doit attendre 3 ou 4 heures avant d'aller pisser?
Non, il me semble, dans l'ordre, après...
Ça veut dire qu'il se lève tôt, parce que s'il écrit 3-4 heures,
il se lève très
c'est
tôt,
encore le
ouais.
matin.
Ouais, il se lève à 7 heures, 7h30 par là, donc il a un petit tapis de course, il fait quelques pompes et tout, il s'entretient. Alors, il a reconnu plusieurs sources d'influence pour cette histoire, notamment les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, ainsi que son remake Les 7 mercenaires, la trilogie L'homme sans nom de Sergio Leone, et d'autres œuvres de Howard Hawks et de John Sturges, entre autres. On a aussi beaucoup d'influences de la pop culture, on les a déjà dites, mais je vais les reciter. Plusieurs loups ont des armes qui sont en fait des sabres laser de Star Wars. Andy le robot, il ressemble physiquement à C-3PO ou un peu à un robot d'Asimov. Les loups eux-mêmes, ils sont physiquement décrits comme Doctor Doom des comics Marvel, ça c'est Grand Poil qui a développé. Et ils envoient des grenades sorties de Harry Potter, puisqu'elles s'appellent des vifs d'argent, et sont indiquées comme étant le modèle Harry Potter, en référence au vif d'or de la saga du sorcier. Tout le monde aura eu la ref. Sachant qu'à cette
alors
époque,
justement...
l'autrice de Harry Potter était encore sa copine, et que là ça a un peu moins le cas.
Ils alors, sont un peu brouillés. Ah oui. Moi qui ai pas du tout lu les Harry Potter et qui ai vaguement vu les films en faisant autre chose, vive d'argent, machin, donc j'avais fait le lien avec Harry Potter en me disant, je pensais que c'était un terme spécifique à Harry Potter, je pensais pas que c'était un truc générique, bon voilà, ça s'appelle un vive d'argent, on en trouve partout.
Non, en fait, c'est spécifique non. À Harry Potter.
Et oui, mais du coup je l'ai compris, je l'ai compris quand c'est le modèle Harry Potter.
Mais c'est pas une grenade. Dans Harry Potter, ça
oui, non,
ça
oui,
pas.
Non.
Ouais. C'est peut-être pour ça que c'est argent et que c'est pas tout à fait la même chose.
Ah, ce serait plus marrant, les parties de Quidditch.
Ah, c'est ouais. Clair. Hein. Surtout quand, spoiler, il l'attrape avec la bouche.
Ça pourrait, ouais, j'avoue, ça hurle, si ça pète partout, ça pourrait te plaire.
Oui.
Et je vais finir sur les connexions. Parce qu'on en a. Le Shining est mentionné, hein, comme à chaque fois, comme à chaque tome du cycle. On a une référence au film Shining dans la première partie avec la phrase suivante qui est « Jack Andolini avait la tête du taré qui brandit sa hache dans les films d'horreur ». Donc ça, c'est assez évident. Le père Callahan est un personnage issu du roman Salem. King y crée des ponts avec notre univers, c'est-à-dire le sien, en se mentionnant lui-même dès les premiers chapitres, puisqu'on l'a redit à des Stephen King annoncés en arrivage dans la vitrine de la librairie. Et à la fin du roman, il pousse le lien en faisant réaliser au père Callahan que son histoire est contée dans le roman Salem d'un certain Stephen King. Le nom de l'autrice, de Charlie le Chouchou, il a changé. On l'avait relevé, c'est Claudia et Inès Bachman. Et en fait, cette personne n'est autre que la veuve de Richard Bachman. Richard Bachman étant le pseudonyme que King a utilisé dans la vraie vie pour publier plusieurs romans. Et enfin, on l'a dit aussi, King, il y écrit les prémices d'idées de 22-11-63, quand le père Callahan, il explique qu'il a eu plusieurs fois l'idée de voyager vadache pour empêcher l'assassinat de Kennedy, et de changer, je cite, le Vietnam, les émeutes racistes et tout. On sait qu'à cette époque, King, il avait déjà en tête l'idée du roman, je l'ai déjà expliqué, mais qu'il ne sentait pas les épaules de l'écrire, et au final, il a bien développé l'idée quelques années plus tard. Voilà pour les connexions.
Bon, bien, je vous invite à écouter notre épisode sur le sujet pour savoir ce qu'on en pense.
Tout à fait.
On s'était fait un petit tête-à-tête-à-tête avec Julien et Grand-Paul pour cet épisode.
C'est vrai.
Nous n'étions que tous les trois.
Ouais, moi, je me souviens qu'au dernier moment, j'ai pas pu venir et que je vous ai laissé ma chronique et que c'était pas mon premier épisode, du coup.
C'est vrai.
Ça aurait pu.
Bien, mais merci à toi. Est-ce qu'il y a des adaptations, des quelque chose à dire à ce sujet ?
Non.
Nada.
Non, non, comme on disait dans les tomes précédents, il y a des adaptations en comics d'histoires périphériques, mais pas celle-là. Mmh. Celle-là n'est pas dedans.
Et du coup, le film, on le fera quand on aura tout fait ?
Oui.
Oui.
Ok.
C'est surtout toujours, pas avant. Il est full spoiler.
Surtout pas avant.
Full spoiler, c'est ça.
Non, on va dire, oui, pour comprendre le film, il faut avoir compris tout le
film. En fait, il y a un détail dans le film qui va te faire chier si tu le remarques. Mais alors, si tu connais pas l'histoire, tu le remarques pas forcément, mais si tu lis n'importe quel article sur le film, ils vont t'en parler.
Là, on a un stade de la lecture où fuyez les internets sur la tour sombre.
J'avoue que
je cherchais même pas comment s'écrit des chats.
Quand je fais des recherches, c'est... toujours en mode, putain, pas de spoil, parce que là, j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler.
Ouais, si vous avez des questions, posez-les-nous et on s'en charge.
Alors, tu les poses à Émilie qui te dira, je sais pas, peut-être, attends, j'ai peur de te spoiler, demande à Grand-Poil.
Ouais, je l'ai fait
si
une
tu veux mettre,
fois.
Si tu veux mettre Émilie en panique, tu lui poses une question sur la tour sans en lui disant, mais me spoil pas.
Mais ouais, j'ai peur de gâcher des trucs.
Moi, je balance.
Bon. Donc, on passe directement à la théorie de Hurd.
Oui.
Rappelez-vous, écoutez-moi, je vais vous partager un résumé de la trame des théories de la Tour Sombre, car moi y compris, j'y perds mes petits. La Tour Sombre serait un recycleur d'histoires, qui parfois laisse s'échapper des souvenirs. Après un grand débat, c'est Roland qui fut de service pour les éradiquer. Il fut touché par la gratitude du hamster oracle, qui tira les cartes pour tisser son destin et trouver ses compagnons. C'est là que Charlot le TGV apparut de l'arcane du chariot et dévasta tout, seulement les hamsters oracles dans les mondes. On désigna à la hâte les chats ninjas comme remplaçants, dit hamster oracle, pour écrire la suite du quatette. L'opinion était très divisée quant à cette idée, certains trouvant leur travail merveilleux et d'autres le qualifiant de ramassis de chiure. Mais quoi qu'il en soit, tous suivirent cette histoire avec le sourire ou une poubelle à vomi. Les hamsters oracles avaient valdigué Vadash pendant quelque temps, se retrouvant chacun dans une histoire différente. Seul le chef hamster oracle ne se laissa pas échouer dans un monde et sortit son tarot. Il nomma chaque arcane majeur après la sienne, le magicien, et à chaque fois un son s'ajoutait, créant une mélodie. À chaque arcane, l'un de ses compères se fit appeler dans son monde et apparut avec un « pop ». Ils furent ainsi tous réunis, tous les 21. Exactement. Lors du dernier appel, un bateau pirate, clin d'œil, apparut avec un boing et chaque hamster oracle volta jusqu'à ses bancs. Ils virent également une chatière flottant de l'eau vide, sûrement le fait des chats ninjas pour remplacer les portes. Avant de rentrer dans leur monde, le chef hésita d'abord, puis appela l'arcane sans chiffre, le fou. La mélodie s'arrêta net, les cartes s'éparpillèrent sur le sol, et tous les hamsters oracles retinrent leur souffle et fermèrent les yeux de peur. Mais ouf ! Ils furent aspirés par la chatière. L'histoire ne dit pas si la chatière était énorme ou le bateau pirate Rikiki. Ils prirent à nouveau le destin du cathète entre leurs pattes. Chacun amena la part de l'histoire dans laquelle il avait été coincé, et le chef hamster oracle les écouta attentivement avant de les inclure dans l'épopée. Des histoires de petits villages, de vampires et de morts-vivants, de westerns, de loups-garous, de magiciens, en passant par la Bible, une chanson sur les roses et un anime sur le billard. Si, si, je vous jure. Il aima particulièrement le personnage de Callahan rapporté par le hamster oracle de l'arcane du pendu et lui laissa un grand espace pour s'épanouir. Quelle ne fut pas sa joie lorsqu'il constata qu'il devenait un personnage du cathète en s'imprégnant de cette histoire. Les hamster oracles guidaient le cas, lui proposant des directions, des idées, mais le cas décidait et zigzaguait comme bon lui semblait, emmenant avec lui l'histoire et ses héros. Un seul problème arriva. Le hamster oracle de l'arcane du soleil, le 19, répétait sans cesse ce chiffre. 19, 19, 19. Dans une sorte d'hypnose, les yeux fixés sur le vide. Son sang échappa au chef hamster oracle, mais il prit une part grandissante dans l'histoire. Mais soudain, il déclara, d'un ton qu'on ne pouvait qualifier d'ébahi, d'énervé ou d'ébahi, « Komalat Komala ». Grand merci, beaucoup, beaucoup, à toutes et à tous, et à bientôt.
Bravo,
à bientôt.
Bravo, ouais. Bravo.
Merci.
J'ai une question. Je connais pas le mot valdiguer.
C'est aller dans...
Valdinguer, non?
Valdinguer, alors, je m'en rends pas compte.
Je crois pas que c'est la même chose.
C'est...
Valdiguer.
Non, valdinguer, c'est vraiment quand tu pousses un truc et qu'il va un peu dans tous les sens. Je sais pas comment expliquer.
Ouais, ouais, ouais.
Valdiguer. Je pense que c'est une... Ouais, ça doit être une variante de valdiguer, en fait.
D'accord. Ok.
Alors, valdiguer, c'est un cépage.
Ouais, c'est un cépage de rouge.
Ah, donc rien à voir. Non, valdinguer, je sais pas, c'est genre t'es en voiture, tu freines un peu fort, puis t'as
Quelqu'un.
Ouais, valdinguer, c'est tout qui part en sucette.
Ouais,
ça,
c'est ça.
Je l'ai.
Bah, du coup, ça doit être de mon patois. Je m'en suis même pas rendu compte.
Okay. Eh ben, c'était très bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Ah, c'est Grand Poil maintenant qui va pouvoir bavasser. Tu vas nous lire les questions ?
Je peux vous lire les questions.
Pas l'abri.
Oh, t'as presque rien dit ce coup-là.
Alors, question des auditeurs. On commence sur le Discord de Podcut avec Juju Pink qui nous demande « Super à la suite des aventures de la fine équipe, hâte de vous écouter. Si vous pouviez emprunter une porte ou prendre un TARDIS vous permettant d'accéder à une époque ou à un moment particulier, ce serait laquelle ou lequel ?» Merci encore pour votre éclairage avisé sur les œuvres de Monsieur King, que la force soit avec vous.
Beaucoup de références dans une seule question.
Oui, alors, où est-ce que vous iriez ?
Enfin, moi j'ai réfléchi. En fait, il y a un truc qui m'est venu de suite, mais c'est pas très rigolo. C'est en fait, j'irais voir ma grand-mère dans sa jeunesse pour régulièrement lui faire des câlins et lui dire « T'inquiète, ça va bien se passer ». Voilà.
C'est tellement mignon.
Ben ouais, mais bon, voilà. C'est le premier truc qui m'est venu. Enfin, ça a été, voilà.
Mais oups, direct. Moi, vas-y, Émilie.
Moi, le truc qui m'est venu, mais parce que ce week-end, j'étais en week-end de RL Fest et on se disait quel concert on pourrait faire, un concert qu'on a loupé et tout. Et moi, j'aurais un regret à vie de pas être née à temps, de pas avoir pu voir Queen en concert. Donc je me téléporterai au Live Aid de juillet 85 pour voir Queen.
Ah, j'irai à celui de Wembley, moi.
Ah ouais, aussi. Queen en concert, quoi.
Ouais, j'avoue.
Moi, j'irai sur les plages du débarquement, le jour du débarquement. Je pense que tu vois ça, tu dois te dire, mais ok, c'est complètement fou.
Voir ça et mourir, tu veux dire?
Ouais, il y a moyen que tu vois ça et que dans la foulée...
On part du principe qu'on est dans le TARDIS. Donc, on est une cabine bleue sur la plage, comme ça.
On est au-dessus, tu vois ça depuis le TARDIS en l'air, d'accord. Et toi, Emric?
J'irai voir ce que c'est un vrai abordage de pirate.
Ah ouais.
Trop cool.
Parce qu'on n'en a que des perceptions très romantiques et très romantisées.
Ouais.
C'est parce qu'il y a beaucoup
barbare,
de gens qui tombent à l'eau.
Je pense qu'il y a beaucoup de têtes qui sont coupées. Et de...
Ouais, de, ouais, même pas forcément de têtes, mais ouais, des doigts, ouais, des mains. Ouais.
Des blessures sales, ouais, en fait. Mmh. Pas des gens, ouais, qui meurent sur le coup comme c'est dans les films.
Ouais,
aussi.
Des,
ouais,
boyaux. Des...
Mmh. Et toi, Urda?
Alors moi, je me suis dit que je suis bizarre parce que le premier truc qui m'est venu, c'est les dinosaures, tu vois. Genre, ça doit être...
Ah ouais, cool.
Non, mais oui.
Et puis,
oui,
comme ça, tu vérifies si c'est des oiseaux ou des lézards. Enfin, là, on penche plutôt du côté des oiseaux. Et après, je, ouais, me suis dit, non, il y a encore mieux. Je pourrais être là quand à la naissance de l'univers. Donc, tu vois, c'est... Voilà, là, je me suis dit, je vais un peu loin.
Peut-être
le
plus
Big Bang dans ton
tardif,
ouais.
Peut-être plus tardif que porte.
Voir le Big Bang parce qu'on ne l'explique pas, donc voilà.
Et toi, grand Paul?
Moi, je serais dinosaure. Moi, j'irai voir des, ah, dinosaures. Tout de suite.
Des gros poulets.
Vous, des gros poulets. Et justement, pour savoir si le raptor, il fait piou-piou en agitant les ailes ou s'il a l'air féroce.
Et c'est le T-Rex, il marche en remuant du popotin comme un dindon.
Il a vraiment des petits bras.
En faisant goulou-goulou.
Voir ça et mourir, c'est comme Julien.
Peut-être, oui, peut-être.
Et Amérique, du coup. Oui. Et Urde. Mais en fait, y a que avec Emily où on s'en sortira pas. On pourra raconter,
ouais,
ce qu'on a vu.
Question suivante, qui vient de Twitter et qui nous a été adressée par Les Yeux Clos Podcast. Alors, c'est comme le choix de Calvin Tower pour le libraire, quoique là, c'est un très gros coup de coude de l'auteur dans les côtes du lecteur. Les noms ont-ils un sens?
Il y avait une première question avant, je crois que c'était en deux questions, enfin en deux tweets, cette question. Alors,
ah oui, un truc en blanc sur blanc. Dites le, ouais, nom Lakala pour désigner le lieu où vit le père,
ah, oui,
Callahan, c'est bizarre, non?
Je me disais bien que j'allais copier
un morceau. Dans la... Alors, il y a King qui a un chapeau avec des noms et il y a la tour sombre.
Ouais.
Dans la tour sombre, rien n'est par hasard.
Ouais, j'avoue, le Callahan...
Mais même lui, il se pose la question.
Lakala, au final, ça désigne, c'est un peu comme un nom de ville. C'est juste un nom de, ça désigne une ville parce qu'il nous dit il y a Bryn Sturgis et il y a d'autres noms plus loin.
Oui,
à côté.
Et puis il parle de Cala New York, du coup, quand.
Lakala, c'est même, ouais, c'est même pas une ça désigne
c'est
pas une ville, ça désigne un lieu, une région, un endroit.
Genre, je doute que King ait des notions d'espagnol, mais en espagnol, Calle, c'est la rue.
C'est la rue, ouais. Ouais. Oh, c'est pas dit que ce soit tout à fait un hasard non plus, hein.
Ouais.
Tu sais, sans forcément être bilingue, tu peux avoir... ou ne serait-ce que chercher, tu vois, dans une autre langue, un nom qui pourrait aller...
Oui, peut-être.
Je pense que le lien avec Callahan est quand même plutôt une coïncidence au départ que King qui s'est dit « Je vais appeler ça Lakala parce que j'ai Callahan à côté. »
Ouais, j'avoue, je sais pas trop sur Callahan.
Parce, ouais, que là, ça remonterait quand même vachement loin pour Callahan.
En
pour
tout
trouver
cas,
un nom en espagnol, ouais, qui corresponde et qui veuille dire quelque chose.
En tout cas, Callahan se pose la question.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Et je sais plus qui d'autre se pose la question... Mais
ça
c'est
revient,
pas Andy.
Ça revient assez souvent quand même, cette histoire.
Andy
de...
le dit aussi, ouais. Ouais. Oui, oui.
D'ailleurs, à propos de questions sur Callahan, moi, celle que je m'étais posée, là, quelque part dans le tome, je crois, dans la deuxième partie, on a son nom complet. Nom, deuxième nom, enfin, prénom, deuxième prénom et nom de famille. On se rend compte, oulala, que ça fait 19 lettres. Et je me demandais si dans Salem, il faudrait trouver un moyen de vérifier si on avait déjà son prénom, deuxième prénom et nom de famille et si ça faisait déjà 19. Ou s'il y avait juste un prénom, un nom de famille, et que King, il a rajouté un deuxième prénom pour faire 19. Je pense que c'est
bonne question.
Ça, mais je m'étais posé la question. Ouais.
Si quelqu'un a la réponse, faites signe.
Dites-nous en commentaire et sur les réseaux
c'est
sociaux.
C'est pas marqué si on le sait ou pas. Bon.
Ouais. Eh ben, il faut relire Salem. Voilà.
Si quelqu'un est chaud pour relire Salem,
ça fait un peu long là.
Mais non, quelqu'un qui a un hibou qui fait une recherche sur Donald ou sur Don,
oui,
parce que c'est plutôt Père Callahan qui écrit, donc les fois où le prénom complet est écrit, ça n'est pas si souvent que ça.
Ouais, ouais.
Mais moi je l'ai en livre, je l'ai pas sur ma liseuse, donc
on peut le trouver en e-book, mais sinon on veut bien que vous veniez nous le dire sur les réseaux sociaux.
Question suivante. Alors là, on passe à Facebook de Johan Musidlac. Bonjour à toute l'équipe, grand merci pour ces podcasts de qualité. Ma question donc, je vous trouve moins salé ronchon au fur et à mesure de votre lecture de La Tour Sombre. Est-ce par lassitude ou est-ce que la saga gagne en qualité? Je suis convaincu que c'est la deuxième réponse, mais je ne suis pas obligé.
C'est un Stockholm, c'est un syndrome de Stockholm.
Non, bah, je pense qu'on a, on l'a dit, qu'on on en vient tous à apprécier vraiment de plus en plus les tomes au fur et à mesure, là. Y a pas trop de...
Oui, tout se met en place, tout commence à s'imbriquer, des choses qui nous paraissaient tirées par les cheveux au départ finissent par, par s'entremêler et par avoir un sens, donc ça se bonifie avec le temps, donc...
Donc, voilà, j'avoue que sur les premiers tomes, je me souviens grand poil, je dirais au moins sur les deux premiers, peut-être.
Bah, le premier,
trois.
En tout cas.
Ouais, on a fait tout ce qu'on pouvait en disant vous verrez, mais si, après c'est bien, machin. Et que là, oui, depuis le 4, c'est un vrai plaisir de vous voir commenter votre lecture sur notre Discord et de se rendre compte que vous aimez. Et là, le tour de table de début où tout le monde a adoré et tout le monde veut la suite, c'est trop cool, quoi, de voir à quel point vous accrochez alors que c'était pas forcément gagné d'avance parce que ça reste une histoire complexe, hein, un peu tirée par les cheveux. J'ai peur que ça accroche pas jusqu'au bout parce qu'il reste encore beaucoup de choses à vivre. Ça, on verra. Mais jusqu'ici, c'est super cool de voir votre avis évoluer, en tout cas.
Ouais, alors, moi, j'ai un peu un PTSD, le fléau.
Ouais.
C'est-à-dire que il me tarde pas forcément la suite, de peur de découvrir que là, ouais, c'était bien et qu'en fait, la suite est nulle. Du coup, en fait, non, il me tarde pas la suite. Bah, tu vois, presque, j'aurais envie de me dire, restons sur cette bonne impression.
Ouais, je comprends.
Surtout que j'ai vu la taille du tome 7. Donc, le 6, je sais plus lequel des deux est particulièrement très gros.
Le 7, le 7.
On le fera.
Le
6,
c'est
en...
comme le 5, mais ouais.
On fera le 6 en 2 et le 7 en 3, c'est ça?
Ah, le 7 va y avoir beaucoup de trucs à dire.
Ouais, donc on le fera en plusieurs épisodes.
En 3, je pense que c'est bien. Déjà, va nous falloir du temps pour le lire et puis, ouais. Le 3, on parlera du film aussi. Hein.
Bon, on n'est pas obligé. Hein.
On fera hors série.
Question suivante de Hugo Benavente. Hello à tous, grand fan de votre podcast Question Con. Où est la tour sombre? Je voudrais y aller.
Ah, ça. Au bout du rayon.
À Ponto de Mer.
Ah non, pas au bout, au milieu. Au bout du rayon, il y a un autre.
Au bout du rayon de l'ours. Au bout du rayon de l'ours. C'est le rayon d'en face, c'est un autre rayon, c'est le rayon de la
tortue. Ah oui, ça commence, d'accord, ok. Ouais. C'est un nouveau rayon qui commence.
Ouais.
Moi, je parle le fait qu'il y a un champ de rose autour, je sais pas du tout où est-ce qu'elle pourrait.
À quel bout? Parce que les rayons, c'est à deux bouts.
Ben, on est parti d'un bout déjà où il n'y avait pas la tour, donc à l'autre bout.
Bah, non,
le bout dans lequel, en fait, tu vois, tu regardes les nuages et tu vois quand il dévie un peu, c'est le sens dans lequel il dévie.
Ok.
Comme une rivière.
Quand tu sais pas, tu demandes. Moi, dans les bois, je me débrouille. Je suis la Bear Grylls, je suis la Charlie Grylls.
Mais moi, je suis quand Team Callahan, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Enfin, voilà, je suis en train gentiment de partir sur cette piste.
Moi, j'ai un peu
une pure métaphore.
Vous voyez quelque chose voilà, dans leur tête, ou je sais pas.
En fait, j'ai... la tour sombre, c'est l'amour.
Ah, en
l'amitié.
Fait,
c'est l'amitié.
Fait, non, l'amitié.
En fait, c'était un rêve, et à la fin, il se réveille.
Alors, c'est du coup, est-ce que vous voulez que ce soit une métaphore, ou est-ce que vous voulez que ce soit une vraie tour?
Une vraie tour, hein, faut pas déconner. Hein.
Moi, j'ai pas d'envie particulière, mais j'ai vraiment très peur d'être déçue.
Okay.
J'ai très 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 peur de déjà qu'on n'ait pas forcément de réponse, mais ça, selon comment c'est amené, j'accepte le non-réponse. Ça dépend vraiment comment c'est amené. Et j'ai peur que quoi qu'il arrive, la réponse soit décevante.
Ok.
Que ce soit...
Tout ce que
putain,
je peux dire, c'est que ce sera un parti pris.
Pour ça
ce sera un parti pris.
Ah,
je pense qu'il y a... Franchement, je pense qu'il y aura des déçus. C'est obligé, vu la fin que c'est, parce que c'est vraiment particulier.
Ok, bon, n'en disons pas trop. Mais,
les
partis
pris ont été pris.
Moi, maintenant, j'ai une certitude depuis que Eddie a dit qu'il était à l'étage 19. De la tour sombre, en fait, je pense qu'au milieu de la tour sombre, il y a une...
Un ascenseur.
Non, une barre comme les pompiers. Je sais pas, j'imagine... Ils se dirigent tous vers cette barre comme les pompiers pour passer d'un étage à l'autre.
Mais non, on a dit qu'il y avait des chats ninjas dans la tour.
C'est une théorie aussi, ça peut se tenir. Allez, on enchaîne. Question suivante. Ou Dante et Bric, tu voulais dire quelque chose?
Non.
Question suivante. De Anne-Laure Rémy. Quel est pour vous le personnage le plus attachant de la saga?
Hot. D'ailleurs, Hot, il est où à la fin? Il a disparu à un moment donné.
Bah, il est avec Jake.
Toute la dernière partie, Hot, on n'en entend jamais parler. Bon, je
oui, lui est... mais
dans la bataille, il a été laissé...
Oui, il est
dans
laissé...
Dans la cathédrale, là, non? Ouais, au presbytère.
Oui, okay, il a été laissé pour... Il n'a pas participé à la baston.
Mais ça a été dit?
Oui, oui, oui.
Ah, ok, bon, bah, il y a des passages que je lis un peu en diagonale.
Il a accepté à contre-cœur de suivre l'ordre de Roland ou de Jake.
Okay. Ouais, Jake.
Jake et Hot, les deux, quand même. Mais ouais. Hot, oui, Hot, il m'a fait chialer à la première partie du tome quand il se présente.
sa petite
ah,
révérence.
Oui.
La voix que prend le narrateur en VO est aussi. Enfin, c'est un homme adulte, hein, donc il peut pas non plus faire une voix très, très mignonne, mais il a une façon de faire parler Hot qui est vraiment. Qui colle bien avec le personnage. Quoi.
Franck Muller. Ouais, merci Franck.
Je voudrais que tu nous fasses français... des extraits, Emmerich, ça m'intéresse.
Ouais, de ouf.
Mais en fait, que ce soit en français ou en anglais, à partir du tome 6, c'est un autre narrateur.
Bah oui, c'est un peu le même narrateur.
Putain, la malédiction, quoi.
C'est clair. On devrait peut-être prévenir ceux dans les autres langues.
Ouais. Arrêtez tout.
Qu'est-ce que je sais plus. Oui, en français, quand Hot parle, sur certains mots, comme par exemple quand il dit « eik » ou des trucs comme ça, il arrive à le faire avec un bruit, on dirait presque qu'il aboie.
Eik.
Ouais, c'est pas mal fait. Et en fait, je dirais que vraiment, à part Roland, je les trouve tous de plus en plus attachants. Eddie aussi, en fait. Parce qu'à la base, enfin à l'origine, Eddie, c'est vraiment un loser qui a une vie de merde, qui a pas eu de chance non plus. Et qui finalement arrive à se sortir de tout ça, prendre ses responsabilités. En fait, il devient un homme lui aussi. Enfin, un homme au sens adulte, pas au sens viril. Ouais, ouais. Et tout le passage là où il devient l'espèce de Bruce Willis de l'épisode, je sais pas.
En fait, Eddie, à partir du moment où il arrive à se défaire de l'emprise du fantôme de son frère, il devient lui-même, quoi. Il prend son destin en main.
J'ai aussi l'attachement pour ce personnage.
Moi, ouais, c'est le petit gars.
Suivante. Ah, pardon.
Le plus attachant pour moi, c'est le petit gars.
C'est le petit gars.
le chap, comme il dit en VO.
Le chap.
Alors, question d'Instagram de la part de Kay Morrigan, qu'on retrouve, je crois, chaque épisode depuis bien longtemps maintenant.
Merci. Oui.
Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez toujours bien. Que pensez-vous des références de plus en plus nombreuses des autres romans de King dans l'univers de la Tour Sombre ? Personnellement, j'adore l'idée que tout soit plus ou moins connecté, même s'il faut suivre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations ? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pour tous ces clins d'œil. Bonne continuation à vous et prenez soin de vous. PS pour répondre à Pomme, ça se prononce Kae.
Ah, enfin une réponse à ma question. Merci, Kae.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces références ? Alors, il parle bien des romans de King, hein, pas Star Wars, Harry Potter and Co.
Moi, je suis fan, quoi. Je suis archi fan. En
fait, moi, je salue le travail de lien entre tout. Parce qu'il le fait pas non plus au forceps, quoi. C'est pas genre, ah oui, en fait, j'ai pensé à tel... Enfin, y en a quelques-unes, peut-être, mais... c'est pas des trucs où il s'est dit, ah bah tiens, il faut que j'inclue Carrie dans la Tour Sombre, tu vois.
Ça fait pas trop forceur.
C'est ça.
C'est vrai.
Ça fait pas trop fanservice. Et en même temps. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si t'as pas la ref, ça t'empêche pas de comprendre le bouquin. Et si t'as la ref, tu dis, hé hey!
Mais est-ce qu'il y a des gens qui ça commencent dire, vraiment ça, King par la Tour Sombre?
Ça doit arriver. J'espère pour eux que c'est pas le cas. Parce qu'ils pourraient le prendre le tome 1 dans la gueule. Tu te relèves peut-être pas trop vite. Hein, mais si t'as pas déjà de l'affect pour King, t'y retournes pas. Hein.
Pour en avoir déjà parlé avec des gros fans de fantasy qui ne lisent pas d'horreur, sur les forums de référence de fantasy, le cycle de la Tour Sombre est souvent cité. Donc je pense qu'il y a des gens qui, pour lire de la fantasy, lisent la Tour Sombre et ne lisent jamais rien d'autre de King.
Oui, ou tu peux avoir lu quelques bouquins de King, mais pas non plus la grande majorité.
Ouais, t'as lu Shining ou les Lignes Vertes comme beaucoup de gens, et puis voilà quoi. Ouais.
Mais je pense pas que ça t'empêche de comprendre pour l'instant. En tout
non,
cas,
du tout.
Non. Ah, non, non.
Du tout.
Pour la Tour Sombre,
c'est ça qui est bien. C'est ça.
Non, je pense juste que la barrière d'entrée avec le tome 1 est compliquée à passer, quoi.
Oui. On avait dit que c'était le rite de passage.
Ouais, c'est ça. Si tu le passes, t'es un homme.
Si tu survis, c'est bon, t'es prêt.
Mais les connexions avec les autres offres, ça rend fou tous les fans, parce que maintenant, quand tu ouvres un bouquin de King et qu'il te sort un modèle de voiture, une date ou quoi, tu te demandes si tu l'as pas déjà vu, quoi. Et faut voir Reddit dès qu'il y a un nouveau livre qui sort. C'est des questions et des questions sur, et ça, vous pensez que c'est ça? Et ça, est-ce que ça pourrait être en référence à ça? Machin, des trucs super capillotractés, quoi. Moi, je me suis toujours demandé, vu qu'il dit toujours qu'il a pas de schéma quand il écrit, qu'il préécrit rien à l'avance et tout, si en fait comment ça se passe dans son cerveau pour qu'aussi naturellement il nous sorte des trucs comme ça, enfin, ça doit être une immense toile d'araignée et je sais pas. On comprend un peu comment ça se passe dans son cerveau dans Doctor Sleep, où sans spoiler en fait, il parle de la mémoire et de tout ce qu'on a dans notre cerveau comme des grandes armoires avec des tiroirs et que chaque chose a sa place dans son tiroir. Et qu'il y a un peu de ça, mais du coup t'as l'impression que lui les tiroirs ils s'ouvrent tout seuls et qu'il s'éparpille dans tout ce qu'il fait, quoi. Il va, j'ai pas l'impression qu'il va aller chercher, parce que justement c'est pas forcé.
Moi ça m'a l'air, je suis d'accord avec toi, ça m'a l'air assez naturel comme, ouais, comme façon de faire des liens comme ça.
C'est assez impressionnant parce qu'il le fait, pour tout, quoi, et que au fur et à mesure où tu lis, si tu lis dans l'ordre chronologique, ouais, tout a une logique. On voit que là, on voit par exemple, on trouve des références au fléau sans qu'il y ait une vraie référence au fléau, juste parce que c'est une même mécanique qui se déploie avec en plus le même méchant. Donc, et les trucs comme ça, c'est tout est hyper logique en fait. Je suis admirative parce que je suis la deuxième plus grande fan de King après Pomme, évidemment.
Bien entendu. Allez, question suivante, on a presque fini. Aurore EV, Eve. Bonsoir, ô chers animateurs d'un de mes podcasts de cœur. Est-ce qu'avec ce tome, Pomme est devenue une fan inconditionnelle de la Tour Sombre et qu'à ce titre, elle lira les tomes restants à la vitesse de la lumière? Dites oui. Belle soirée à vous et à très vite sur les ondes.
Bah, si quelqu'un d'autre prend les notes, ok. En fait, c'est ça. Non, mais c'est ça le vrai problème. C'est qu'il faut prendre des notes et que c'est relou, hein. C'est relou. Franchement, c'est relou.
Ouais. Personne d'autre peut le faire à ta place, hein, donc on va pas dire le contraire.
Non, après, de toute façon, je m'étais engagée à faire tout le cycle de la Tour Sombre si les autres, en l'occurrence Grand Poil, faisaient le reste. Donc, oui. Bah, c'était le deal qu'on avait fait et ça se passe très bien. Et heureusement, parce que pour le coup, sinon, je pense que je vous aurais lâché il y a un moment. Un jour, je me serais pas connectée un soir. Non, c'est là le tome 5, je l'aurais fini très vite si j'avais pas eu à prendre des notes.
Et pour finir, la question du Discord de Stephen King France. Lien en description peut-être.
Non, ma question sur Instagram, elle a même pas été posée.
Ah bon? Alors,
si, bah, Julien,
t'as peut-être répondu à la story, sauf que c'est noyé au milieu de toutes les réponses de tous les messages, donc je l'ai pas.
Je suis triste.
Ça me dit quelque chose, parce que maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose, c'est une question con.
Ah, je l'ai vu passer, attendez, je vais la chercher pendant que tu poses la question de...
Vas-y, t'es peut-être pas le seul, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu aux stories, mais à chaque fois qu'on reçoit un message, ça se noie dans la masse, donc fallait répondre vraiment à la publication.
Je sais qu'on est écouté par des millions de personnes, mais quand même.
La rançon du succès.
Je fais partie du cas-tête, quoi.
Il est minuit 20. Ouais.
Donc, je disais, Stephen King France, Cypher S, ma question. C'est moi ou techniquement, Roland, Jake, Eddie et Susanna seront restés peu de temps qu'à tête, moins d'un tome complet?
Moi, je suis pas d'accord avec la question. Pour moi, ils sont toujours qu'à tête, en fait.
Ouais, mais ils sont quoi, alors, la partie flashback, effectivement.
Oui, ils seront... Ils sont pas restés longtemps en groupe au même endroit, mais leur destin, enfin le quatet, ça va au-delà du fait d'être en groupe au même endroit.
Ça dépend peut-être comment on définit quatet, du coup. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il peut pas y avoir de mensonges au sein d'un quatet, sinon ça tue le quatet, et il y a des mensonges. Après, il y a quand même Susanna qui n'existe plus, c'est Mia, alors est-ce que Mia fait partie du quatet?
Mia fait partie de Susanna. Susanna, elle est encore un peu là.
Ouais.
Elle existe. Est-ce qu'elle fait toujours partie du quatet? Comment on définit quatet en fait? C'est peut-être ça en fait le fond de la question. Enfin, le désaccord sur la question, c'est qu'est-ce qu'un quatet?
Pour moi, c'est toujours un quatet dans ma définition du quatet, parce que justement, ils essayent de sauver le membre du quatet qui a été enlevé par Mia, en gros. C'est ça, c'est, mm-hmm. un, c'est un rapt.
Là où je suis moins sûr, c'est que si il y avait pas eu un, enfin, si Roland n'avait pas compris qu'il y avait un lien direct entre Mia et la Tour Sombre, est-ce qu'il y serait allé? Parce qu'il y a quand même une hésitation de sa part, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y a l'air d'avoir vraiment un lien entre Mia et puis la Tour Sombre et la suite. Mm. Tu sentais que non, bah non, on va aller à la Tour Sombre, hein, Mia. Mm.
Oui, parce qu'il dit, il dit plusieurs fois que, merci, qu'il hein. est atterré. Ouais. Mm.
Mm. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a. Bah, après, c'est. Ça reste dans la personnalité de Roland d'être focus sur la Tour Sombre et que son cathète, le but du cathète, c'est lui qui l'impose pour ça. Et que si, tu vois, ça serait peut-être cassé la gueule si Mia n'avait pas, de manière, par pure coïncidence, hein, n'avait pas eu un lien avec la Tour Sombre pour la suite.
J'ai trouvé la question.
Vas-y.
Ah, super.
C'est un livre sur les genoux sur Instagram qui nous demande de quel roman de Stephen King aimeriez-vous voir une adaptation ou une meilleure adaptation que celle qui pourrait exister. Merci beaucoup pour votre podcast, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Eh bien, merci à toi de nous écouter.
C'était pas celle de Julien, mais c'est une question qu'on avait ratée.
Mais c'est Julien qui a posé une question.
Oui, Julien qui a posé une question.
Ah,
aussi,
c'est, bien.
C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ben, on va d'abord répondre du coup à.
Oui.
Un livre sur les genoux. Une adaptation.
Marche ou crève.
Non, ouais, ah, j'ai peur, j'ai tellement peur.
Ça va
peur.
Venir, ça va venir. On va voir. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours peur, hâte.
mm-hmm.
J'ai pas d'autres mots.
Moi, c'est bon, là, j'ai tout ce que je voulais voir. Je voulais, pendant très longtemps, je voulais voir Jesse. Et il y a eu Jesse, et il est plutôt réussi, et ça me va.
Les yeux du dragon.
En animé, enfin en animé, en dessin animé, ouais.
Ouais, de ouf, ouais, c'est clair. On a perdu Julien. Et
Julien, je sais pas s'il réfléchit ou s'il est.
S'il est mort. Il est en pleine descente d'endorphine.
Très vexé.
Pourquoi t'es consterné? Je l'ai, ta question.
Moi, j'aurais aimé un nouveau remake, le remake de Cimetière qui tenait les promesses de sa bande-annonce.
Ah, ça, bah là, il y a un. Ça m'a fait mal. Cimetière qui arrive après qu'il y a zéro promesse.
Oui, alors
sur la jeunesse de Church.
Moi, j'attends Carrie 3.
Même pas un espoir, là.
Il sera la suite de Carrie 2.
Alors, moi j'hésite, mais les enfants du maïs, ce serait pas mal.
Bah, il arrive.
Ah, ouais, ça c'est une bonne idée. Ça sera assez original.
Ce serait bien.
Un bon deuxième, un peu cool, quoi.
Écoute, je pense qu'ils vont aller jusqu'à 19 et que là ils vont s'arrêter.
Ah, oui, il y a des chances.
Tu sais, un crossover entre Dans les hautes herbes et Les enfants du maïs.
Ouais. Dans les
hautes herbes
bouffent
le maïs.
Ah, oui, il y a un peu quel carré des enfants du maïs.
Si, Running Man.
Ah oui, aussi.
Une vraie adaptation de Running Man.
Ouais.
Bah, regarde le film français.
Ah oui. il est introuvable. Oui. Si jamais quelqu'un le trouve, je veux bien le voir. Parce que
ah bah si, je l'ai vu. Extrêmes. Si, si. Ça. Ah si, il se trouve.
Ah ok.
J'essaierai de voir si je l'ai... Je l'ai chopé. Je crois que je l'ai chopé, mais il se trouve.
Ok.
Bah tu nous enverras le DVD par la poste.
Ou une vraie adaptation du tome 1 de La Tour Sombre.
Non.
Ou une adaptation. Mais pour. Enfin, non, ouais, Running Man, pour le coup, j'aimerais bien voir une
adaptation. Les petites sœurs de Luria.
La série La Tour Sombre qui préparait, mais telle qu'elle a été pitchée, telle qu'elle a été refusée par Amazon, quoi. Parce que le pitch est ouf et le mec avait tout compris et les photos sont géniales. Donc, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire un super truc en y mettant l'argent qu'il faut mettre, hein. De toute façon, on fait pas La Tour Sombre avec des cacahuètes, mais ouais. Après, La Tour Sombre, on a tellement peur que ce soit loupé. Mais ça avait l'air vraiment très bien.
Là, le tourson, ça mériterait un traitement à la Game of Thrones, en fait, en termes de budget.
En fait, Amazon a refusé... ah non, c'était pour le Seigneur des Anneaux. Amazon a refusé le projet La Tour Sombre, alors qu'il y avait déjà un pilote de tournée, parce qu'ils voulaient mettre tout leur argent sur la série Le Seigneur des Anneaux.
Ah oui.
Mmh. Ben, j'espère qu'elle va se planter.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
On va dire que la marque Seigneur des Anneaux est plus forte que la marque La Tour Sombre.
Oui, bien sûr. Ben, c'est plus attendu. Clair. Ouais. Mmh. C'est dommage. C'est dommage.
La question alors, Julien,
j'ai une question de Loiseman sur Instagram qui dit
«
Est-ce que le lancer d'assiettes envers des robots oppresseurs qui leur coupent leurs petits zizi de tête, c'est une allégorie des luttes féministes magnifiée par Stephen ?»
Et il est fier, en plus, il est mort de rire.
Il est
non, mais il s'aime. Il s'aime de sa connerie, il en peut plus.
C'est magnifique.
Je crois que c'est le moment de faire la conclusion, non? Est-ce que vous recommandez ce livre en première lecture?
Est-ce que
ah bah oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut commencer par la trilogie féministe de Stephen King?
Avec...
Quel enfoiré.
Avec Christine et Jessie.
Ah putain, je me souviens de ce livre en plus. Ah là là. Ah, j'ai pas repensé, mais j'ai...
Christine, Jessie et le Tom Sock de la Tour Sombre. Mais quelle horreur. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter, les copains? Est-ce qu'on sait ce qu'on fait comme livre après, ou pas?
Oui.
Oui?
Ah oui, on sait.
Au mois d'août?
C'est même marqué, regarde, il y a même des trucs dans le Discord.
Ah oui, c'est vrai. Bah, je me souvenais pas.
On fait une nouvelle.
On peut l'annoncer, du coup.
Ouais. On va faire une nouvelle. On va faire celui qui garde le verre, ce qui nous permettra de... Alors, on va le faire un peu en avance de la série télé, mais peut-être de nous faire on pourra faire un hors-série dans la foulée sur la série télé qui va sortir, qui va s'appeler Chapel Waits.
Ouais.
Qui, j'espère, promet des belles choses. Vu les premières images sont vraiment sympas. J'espère que l'ambiance sera cool.
Qui sortira quand?
Et donc, c'est celui qui garde le verre, c'est en lien avec Salem, non?
C'est en lien avec Salem.
Ouais. C'est un genre de préquel à Salem, ouais.
Si tu as le bouquin, il est dedans, je crois.
Ouais, dans la version de Salem, il est dedans.
La dernière édition du livre de poche, ou sinon, je crois que c'est Brume. Attendez, je vérifie.
Dans ce macabre.
Dans ce macabre, ok. Merci,
Oui, sinon, ouais, il est dans
le... Ah, mais oui, dans le recueil. Je me suis trompée, excusez-moi.
Non, mais il est aussi, en effet, dans la dernière édition de Salem, il y a celui qui garde le verre à la fin.
Ils ont mis le préquel et l'espèce de petite suite qui se passe. Ouais.
Je me disais bien, ok.
Absolument. Bon, très bien, donc plus personne n'a rien à rajouter, on est bon. On peut dire qu'actuellement, chez Podcut, il y a la réponse D, où vous pouvez entendre la voix de Grand Poil tous les matins au réveil qui vous pose une question, et puis quelqu'un d'autre qui y répond. Et il y a la fiction Pépite, qui est en écoute aussi. Donc ruez-vous sur le flux Podcut Fiction pour découvrir ça. Vous pourrez y entendre la voix de Grand Poil, la mienne, Julien, toi t'y es? Non.
Je crois pas, non.
Je crois pas. Ok, nous deux de ce podcast. Ok.
Ouais, on
sent. Toujours les mêmes, quoi.
Et les voix d'autres copains des autres podcasts. Bon, voilà, bref. Ruez-vous sur cette fiction.
Nous, on va faire notre contre-fiction. Ça s'appellera Pépito. Ce sera qu'avec des gens qui sont pas dedans.
Ceux qui boudent. Pépito, les rageux.
On va entendre grogner pendant 2 heures.
Encore un truc sur moi. Non, un crossover avec Binouz, on goûtera des pépitos. On fera des accords pépito-binouz.
Avec des vrais bruits de pépito à l'intérieur.
Ouais.
Le podcast Le Roi Steven fait partie du label Podcut. Label Podcut rassemble 24 podcasts, 25, 23, je sais plus où on en est, plein de podcasts.
24
qui parlent de plein de trucs. Qui parlent de plein de trucs très 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 différents sur des formats très très différents. Oui, donc allez découvrir tout ça. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous veniez sur le Discord de Podcut, parce qu'on y est et qu'on papote avec les autres qui écoutent Le Roi Steven ou qui écoutent d'autres podcasts, mais venez, c'est cool.
En ce moment, on parle de chats qui font caca partout.
Non, ça, c'est toi qui parles de ça. Il n'y a que toi.
Moi, je mets des photos de Pam qu'il faut légender, si vous voulez.
Non, toi, tu parles de ton chat que tu nourris pas.
Moi?
Oui.
Et je vais faire comme Roland, hein.
Ouais, on avance. Et puis bon, on a comme toujours le Patreon si jamais vous voulez nous aider financièrement dans tout
pour
ça.
Pour achète le projet de
des croquettes. Non, pour acheter des croquettes pour Muska.
Eh, Muska, il a pas fait chier de tout l'épisode. C'est pas lui qui est venu taper les sushis de Julien. Bref,
voilà.
Des bisous. Est demain, il est 1:30. Ouais, donc on va aller dormir maintenant. Hein. Ouais,
allez, des bisous,
des gros bisous.
Ciao.
À bientôt.
Ouais, d'ailleurs, vous allez attendre l'épisode suivant. Je vous propose qu'on se quitte ici. Julien fera un résumé de
allez,
cet épisode dans le prochain.
Allez, c'est parti. Ciao tout le monde. Cette blague à l'infini.
je prends un petit coup d'eau. Et on est
c'est bien, ça chauffe la voix avant qu'on commence.
Voilà. J'ai un papillon qui est rentré dans mes lunettes.
J'ai une invasion de mouches aussi, c'est terrible.
Et comme je reflète la lumière, ils me prennent pour un lampadaire, c'est trop
rare.
Ah putain.
C'est un papillon de lunettes.
De lunettes.
De lunettes. Sous les projecteurs.